Bienvenue à chacune et à chacun, que vous soyez donc en présentiel ou en distanciel. Nous sommes heureux de vous accueillir au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, à l'occasion de cette soirée débat, bifurquer, désobéir ou s'encarter, faut-il choisir ? Cette soirée débat au Centre Sèvres est co-organisée avec deux autres institutions jésuites, le CERAS, Centre de Recherche et d'Action Sociale. Le CERAS est une association d'éducation populaire qui a pour objet de produire et diffuser une réflexion autour des questions politiques, sociales et écologiques avec une inspiration chrétienne. Par la publication notamment de la revue Projet, l'animation de formations et conférences et un travail de recherche. L'autre institution co-organisatrice de cette soirée est la Maison Magis, maison ouverte par les Jésuites au cœur de Paris, rue d'Assas, pour les jeunes adultes et animée avec les jeunes adultes pour les accompagner dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Alors cette soirée est aussi l'un des temps forts du diplôme universitaire Humanisme et Politique, Penser et vivre l'engagement, dont la seconde session a lieu actuellement au Centre Sèvres, et dont j'ai le plaisir d'être co-responsable pédagogique avec mes homologues partenaires de cette formation, donc, à savoir l'Institut catholique de Lille, le campus de la Transition et le Cercle Esprit Civique, qui est d'ailleurs à l'initiative de ce diplôme universitaire. Alors au moment où la démocratie est menacée par des crises géopolitiques et socio-économiques majeures, le diplôme universitaire Humanisme et Politique propose de revisiter pendant un an les fondements théoriques et pratiques de la vie politique pour refonder l'engagement au service de l'intérêt général. Il s'adresse à toute personne engagée ou désirant le devenir. Il propose des enseignements de fond en sciences humaines, sociales et politiques, mais aussi des ateliers pratiques pour apprendre à débattre et argumenter, ou encore à relire ses expériences en vue du discernement pour l'action. Mais il propose également des tables rondes pour rencontrer donc des témoins engagés pendant tout le temps de la formation. Alors le DU Humanisme et Politique se déroule cette année en 22-23 pour la deuxième année, donc en trois sessions de quatre jours, d'octobre à mai et successivement dans chacun des lieux partenaires. Alors pour davantage d'informations, je vous invite à visiter la page de la formation sur le site internet du Centre Sèvres. Alors le débat de ce soir est au cœur, nous croyons, des questions qui préoccupent les étudiants de ce diplôme universitaire Humanisme et Politique, mais pas seulement, et c'est pour ça que vous êtes ce soir nombreux dans la salle et en distanciel. La désobéissance civile par des militants écologistes se multiplie, les diplômés refusent d'intégrer les grandes entreprises, les partis politiques sont désertés par les jeunes, où s'engager pour faire changer les choses ? Alors Agathe Mellon, membre du CERAS, et Charles Duplâtre, membre du CERAS et de la Maison Magis, vont présenter leurs invités ce soir et animer le débat. Je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et un excellent débat. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour cette soirée. Alors que se termine la COP27 aujourd'hui et que s'ouvre bientôt la Coupe du Monde très controversée au Qatar, et comme l'a dit Clarisse, alors que les interventions des militants désobéissants se multiplient, l'écologie est indéniablement à l'agenda médiatique. Et face à un jeu d'échelle qui souvent nous échappe, celles et ceux qui sont sensibles à la cause écologique et sociale s'interrogent sur les modes d'engagement.
des initiatives fleurissent quand d'autres espaces sont désertés. Les actions de désobéissance civile se multiplient, on l'a dit, les diplômés refusent d'intégrer les grandes entreprises, les partis politiques désertés par les jeunes. Et donc, où est-ce qu'on s'engage pour faire avancer la justice sociale et climatique? En association, en entreprise, en politique? Est-ce qu'il faut bifurquer? Est-ce qu'il faut désobéir? Est-ce qu'il faut s'encarter? Pour discuter de ces enjeux, on accueille ce soir 4 personnes. Alors, pour l'instant, ils sont 2, mais on vous assure qu'ils vont arriver dans les minutes qui viennent. Ils nous ont prévenus de leur retard. Et chacun et chacune ont opté pour un mode d'action différent. On va vous les présenter.
Et donc, pour commencer, Benoît Algan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien et vous faites partie de ces diplômés qu'on appelle les bifurqueurs, ceux qui ont mis leurs convictions avant leur carrière professionnelle. Vous avez participé à l'élaboration du manifeste étudiant pour un réveil écologique signé par 30 000 étudiants qui ont demandé, je cite, enfin qui ont refusé, je cite, de se tourner vers les employeurs qu'ils n'estiment pas être en accord avec les enjeux écologiques. Vous avez également écrit dans la revue Projet, dans le numéro d'août dernier, Face au mur, entreprise et écologie, et vous y témoignez notamment de vos échanges avec les dirigeants des grandes entreprises. Et vous avez également suivi le diplôme universitaire, dont c'est la deuxième édition cette année, l'année passée, Humanisme et politique, penser et vivre l'engagement. Merci d'être là.
Merci.
Claire Toury, vous êtes présidente du mouvement associatif, mouvement qui rassemble plus de 700 000 associations françaises au service de l'intérêt général dans le sport, la culture, l'éducation populaire, la solidarité ou encore l'environnement. Vous êtes également docteur en sociologie, vous avez travaillé sur l'engagement étudiant et la construction identitaire et politique des individus. Vous avez également écrit pour la revue Projet en février dernier dans le numéro « L'imagination au pouvoir » sur les mutations militantes et l'histoire de l'engagement citoyen. Et enfin, vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental.
Oui, bonsoir, merci. Est-ce qu'on présente les autres? Ok, on va les présenter et puis vous les découvrirez quand ils arriveront. Donc, Quentin Sauzet est engagé dans l'innovation démocratique. Il a co-présidé l'association Démocratie ouverte, qui vise à améliorer la démocratie avec 3 principes. Les voilà. Arrivée triomphale de nos derniers invités. Donc, nous disions, Quentin, que vous avez co-présidé l'association Démocratie ouverte.
C'est vrai.
Voilà. qui vise à améliorer la démocratie avec 3 principes, transparence, participation et collaboration. Et vous pourrez nous en dire plus ensuite quand vous vous serez installé. Et par démocratie ouverte, vous avez également œuvré à la mise en œuvre de la Convention citoyenne pour le climat. Donc 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pour aboutir à 149 propositions auprès du président de la République, avec comme objectif la réduction des gaz à effet de serre en France et dans un esprit de justice sociale.
Et enfin, Claire Lejeune, vous êtes militante écologiste depuis plusieurs années, notamment dans les marches pour le climat. Vous avez milité aux Jeunes écologistes avant de rejoindre l'Union populaire et de vous présenter aux élections législatives de 2022 dans l'Essonne, sous les couleurs de la NUPES, la Nouvelle Union populaire économique et sociale, écologique et sociale. En parallèle de cela, vous poursuivez une thèse en théorie politique sur la planification écologique et vous vous décrivez comme une chercheure engagée.
Maintenant qu'on a présenté nos 4 invités, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous, le public. Donc on va vous poser quelques questions. Et à chaque fois que vous vous reconnaissez dans l'énoncé, on vous demande de lever la main. Voilà. Première question, qui a déjà participé à une action de désobéissance civile? 2. Ok, grosse dizaine.
Qui a déjà milité dans un parti politique ou dans un syndicat?
Et un petit peu plus, sensiblement les mêmes. Qui a été déjà bénévole dans une association? Wow. D'accord.
Qui a déjà manifesté?
Qui a déjà changé de travail par conviction? Oh.
qui a déjà voulu changer de travail par conviction?
Et qui a déjà voté? Ok, on est sur une immense majorité.
Bravo. La discussion va pouvoir commencer maintenant. On va donc discuter d'abord avec nos intervenants. On va avoir à peu près une heure pour discuter. Et puis ensuite, la parole vous sera donnée. Un micro circulera dans la salle. Donc n'hésitez pas en attendant à noter vos questions, vos interventions, si vous avez des choses à dire ensuite.
Et donc pour commencer, on va parler de bifurcation. De Polytechnique à AgroParisTech, les militances écologiques inattendues émergent, notamment avec ce refus de travailler pour des entreprises qui sont jugées polluantes, trop polluantes. Et donc Benoît Algan, vous avez décidé de ne pas suivre la voie qui vous était proposée. Et pour vous, les entreprises ne représentent pas un espace que vous souhaitez investir. Est-ce à dire qu'elles sont sans espoir? Et que dites-vous à ceux qui veulent changer les entreprises de l'intérieur ou qui n'ont pas le luxe de pouvoir changer d'entreprise?
Alors, est-ce que les entreprises sont sans espoir? Je pense que ça dépend de quelles entreprises on parle. Il y a beaucoup de types d'entreprises différentes. Et évidemment que certaines ont toute leur place dans la transition. Ils peuvent même être moteurs de la transition. Moi, je peux parler de ce que je connais le mieux. Avec un regard comme extérieur, c'est plutôt le monde des grandes entreprises. Parce que quand on a écrit ce manifeste en 2018, donc on était 30 000 étudiants à dire qu'on voulait participer à changer un système économique en lequel on ne croit plus, et que notamment dans nos choix de carrière, on placerait les questions écologiques au cœur de nos choix. Et donc après avoir fait ça, on a été invité par beaucoup de dirigeants d'entreprises pour les rencontrer, pour échanger nous sur nos revendications. Et puis eux pour nous expliquer ce qu'ils faisaient. Donc on a eu le droit à beaucoup de beaux discours sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, sur la nécessité pour eux de nous rejoindre en nous disant qu'il fallait qu'on aille les investir pour changer les choses de l'intérieur. On est arrivé dans un monde très différent du nôtre. Donc on était nous les petits écolos de notre campus de Polytechnique où on faisait notre potager. Et puis on est arrivé dans ces grandes tours à la Défense où on sentait que voilà, il y avait des millions. Donc des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Et en même temps, on trouvait qu'on n'avait pas le même logiciel, qu'on posait pas le même regard sur ces questions. On sent qu'on est dans un univers qui reste très court-termiste, très tourné d'abord sur la rentabilité financière. Ça, c'est hors de question de nous toucher à ça. Et puis derrière, on peut essayer de voir quand même comment on améliore à la marge ce qu'on fait. Donc moi, je fais le choix, et je l'ai dit, et j'encourage plutôt les jeunes diplômés de ne pas rejoindre ce genre de grande organisation, parce que je pense qu'une fois qu'on est dedans, c'est très compliqué de faire changer les choses. C'est un peu ce qu'ils essayent de nous montrer, ils essaient de nous attirer en disant « venez changer de l'intérieur ». Je crois qu'on arrive, quand on est jeune, dans des postes plutôt techniques. On comprend vite qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis, on adopte, en fait, à mon avis, les codes de ce système, de ces entreprises. Et je pense que, vu l'urgence dans laquelle on est, on a beaucoup mieux à faire en allant inventer autre chose. Ensuite, dans la question, il y avait qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas changer, qui n'ont pas le choix. C'est vrai que nous, on est quand même un mouvement qui est venu plutôt des grandes écoles. Donc on peut dire qu'on a le luxe de choisir. Et on a le luxe de choisir des secteurs qui sont engagés, des entreprises qui sont engagées. Je pense que pour ceux qui... D'abord, le premier point que je peux dire, c'est quand même ceux qui ont besoin d'un salaire suffisamment élevé parce qu'ils ont une famille, etc. On peut toujours choisir le secteur dans lequel on travaille. Et il y a certains secteurs qu'il faut abandonner, d'autres qui ont toujours leur place, y compris certaines industries. Et puis ensuite, pour s'engager en interne, je pense qu'il ne faut pas avoir de leurre sur le fait qu'on va pouvoir faire changer beaucoup de choses, mais que le meilleur moyen de le faire, c'est quand même de s'engager à plusieurs en collectif. Donc nous, avec le collectif Point Écologique, on a travaillé avec des collectifs de salariés qui se montaient de manière plutôt informelle, qui s'appellent maintenant les collectifs et qui essayent de faire bouger les choses en interne. Donc c'est très variable ce genre d'initiative. Il y en a où ils restent vraiment à des éco-gestes au bureau, d'autres ils améliorent la politique RSE de l'entreprise, et puis certains ils sont un peu plus dans un rapport de force avec l'entreprise. Je pense par exemple au collectif d'Orange qui était contre la 5G, donc eux ils ont été un peu écrasés par l'entreprise, on les a remis à leur place. Une autre possibilité, c'est aussi de s'engager dans des syndicats. Moi, j'ai fait 6 mois de stage à la CFDT en me disant que c'était un contre-pouvoir intéressant dans l'entreprise. Et il y a beaucoup de choses à faire, à investir dans ce champ syndical. Et en même temps, aujourd'hui, la culture syndicale n'est pas du tout est très peu portée sur ces questions écologiques. Ça augmente doucement. Mais il y a vraiment besoin de formation et de personnes compétentes formées si on a envie que les syndicats s'emparent davantage de ces questions.
Merci. Et donc, bifurquer, c'est une solution qui, à défaut d'être individuelle, et en tout cas très locale par rapport à la puissance des entreprises et à leur capacité de recrutement, d'aller convaincre des jeunes avec beaucoup d'avantages, etc. Et donc, c'est peut-être plutôt la politique, ou est-ce que c'est la politique qu'il faut mobiliser face à ces entreprises-là pour réussir à infléchir leur politique ? Claire, si vous voulez répondre. Sur la planification écologique, c'était le sujet de votre thèse ?
Tout à fait. Peut-être je vais rebondir sur 2-3 choses que t'as dites, Benoît, parce qu'en fait, je viens moi-même d'un parcours plutôt grandes écoles. Je suis arrivée en classe prépa littéraire à Henri IV par un cursus qui était fait pour les élèves boursiers. Et en fait, j'ai intégré l'ENS puis Sciences Po. Et puis, je me suis retrouvée dans ces grandes écoles à lire par moi-même, en fait, à découvrir par moi-même l'ampleur de la crise écologique et à me dire d'une part comment ça se fait que j'ai fait tout ce cursus scolaire d'excellence, d'élite, etc. et qu'il n'y avait nulle part cette question qui est absolument fondamentale, qui va chambouler tout dans nos vies et qui devrait être en train de chambouler nos rapports à la politique, le rôle de l'État, le rôle des collectivités. Ça devrait être en train de tout changer. Ça ne change rien et c'est quelque chose qui est relativement... Enfin, j'espère que ça a changé depuis que moi, je suis passée par la primaire, le collège, le lycée et les études supérieures. Mais voilà, donc il y avait ce premier choc et du coup, un peu un rejet, je pense, du même ordre peut-être que vous avez eu, de en fait, cette notion même de carrière, en fait, qu'on nous présente et on nous projette dans telle ou telle voie, alors que pour nous, c'est fondamentalement la question du sens et de l'utilité qu'on fait, qui se pose en premier lieu quand on regarde le monde dans lequel on est en train de grandir, de devenir adulte, de se construire effectivement des trajectoires professionnelles. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Je pense, bon, moi, mon parcours, déjà, peut-être, puisqu'il y avait cette notion dans le titre de la conférence qu'on a ce soir de « est-ce qu'il faut choisir ?», je pense qu'en fait, et on l'a vu lorsqu'on vous a posé quelques questions sur vos manières à vous de vous engager, en fait, on n'a pas une manière, on a une manière principale peut-être de s'engager, mais bien souvent, en fait, on a des cartes plurielles. On va manifester, on va voter, on est peut-être dans une asso et aussi dans un syndicat, et peut-être dans une asso, un syndicat et un parti politique. Et moi, mon premier engagement militant, c'était dans une association, on faisait des maraudes dans les camps à Lyon, et on avait organisé un réseau d'hébergement solidaire pour accueillir les personnes réfugiées. Et là, je rejoins... indirectement la question qui m'était posée, c'est en fait c'est par sensation d'épuisement aussi de ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans une association ou dans ce genre d'association. En fait, on fait le boulot de l'État, finalement on remplit des carences sur des fonctions que normalement l'État est censé prendre en charge, notamment l'hébergement des primo arrivants, donc des demandeurs d'asile qui arrivent sur les territoires. Et du coup, de là, une volonté de changer les choses politiquement et de manière systémique. Et c'est ça qui m'a mené à m'engager plutôt dans un parti politique. Parce que effectivement, on a un enjeu de rapport de force, de rapport de pouvoir qui se joue à l'échelle macro. Et ça exclut pas du tout la légitimité et la nécessité absolue de toutes les formes d'engagement qui vont se jouer à l'échelle locale. Mais vu la temporalité dans laquelle on est, en fait, on ne peut pas se passer de l'ambition de prendre le pouvoir au niveau national, enfin, et à toute, enfin, chaque, si vous voulez, pour moi, une campagne politique, c'est un moment d'espèce d'accélération des possibilités militantes, des possibilités de transformation. Vous pouvez vous mobiliser sur quelques mois de campagne et vous avez la chance de débloquer des leviers d'action, potentiellement assez importants, du fait, bon, la 5e République en France, on est plutôt critique, mais Et il se trouve qu'une fois tous les 5 ans, on a la possibilité de prendre un pouvoir pour le transformer, après transformer la manière dont il est exercé. Mais il y a cette possibilité-là qui, pour moi, en tant que militante écologiste, justement, on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Et j'estime encore qu'on a vraiment besoin de toute l'énergie possible dans ces espaces-là et dans ces moments-là de campagne où on a une possibilité de changer de manière assez structurelle les choses. Parce qu'effectivement, quand on regarde le pouvoir aujourd'hui décuplé des multinationales, mais qui a été construit politiquement. C'est-à-dire que c'est des décennies de démembrement des pouvoirs de la puissance publique qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'impression que la politique est impuissante. Mais ça, c'est des choix politiques qui mènent à cela. Et du coup, c'est aussi d'autres choix politiques qui peuvent nous faire regagner du pouvoir. Et ça se fait par des grandes campagnes, ça se fait on a encore la chance de pouvoir acquérir ce pouvoir démocratiquement et collectivement. Et voilà, donc moi, c'est un petit peu les raisons qui m'ont porté à faire ces choix d'engagement là. Et peut-être pour poursuivre sur l'idée de la complémentarité entre les formes de militantisme, je pense qu'il y a trois illusions dont il faut qu'on se garde lorsqu'on a à cœur de changer les choses fondamentalement. Et sur la question écologique, bon, qui de toute façon est entremêlée à la question sociale et aux autres questions, c'est d'abord l'illusion localiste, je pense, pour moi, il n'y aura pas de transformation structurelle par espèce d'émergence d'initiatives locales. Ces initiatives locales sont absolument essentielles pour construire les espèces de bases de la société d'après qu'on envisage tous et qu'on veut tous. Mais c'est nécessaire, mais insuffisant. Je pense qu'il y a aussi une illusion un peu conversionniste, c'est-à-dire qu'en transmettant l'information sur les rapports du GIEC, etc., ce sera suffisant pour enclencher la bascule. Je pense que les informations sont là, elles sont pas suffisamment là. Il y a un traitement médiatique de la question climatique et écologique qui est assez désastreux, qui est pas du tout à la hauteur. Mais je pense que ça suffira pas. Il y a besoin de construire un récit, un mouvement qui prend en charge aussi la conflictualité et le rapport de force. Et donc, ça se joue sur un autre levier que juste la transmission d'informations. Et la dernière illusion qui nous concerne, nous militants de partis politiques, pour le coup, c'est l'illusion institutionnelle et électorale. C'est-à-dire qu'il va suffire de remporter une élection et en claquant des doigts, en passant des lois, ça va suffire. C'est faux, en fait.
On y viendra après sur la question des lois et des...
Ok, d'accord, bon, je m'arrête là pour le moment, du coup.
Oui.
Ok. Mais...
On va juste revenir sur la question de l'emploi et de faire carrière dans ou en dehors des entreprises polluantes. Quentin Sauzet, est-ce que vous voulez réagir sur cette question ?
Je sais pas si ça marche. Ah oui, parfait. Merci. Je m'attendais pas à celle-là, mais évidemment, je peux aussi répondre là-dessus. Moi, j'ai la conviction quand même que pour qu'il y ait un changement, en fait, on a besoin de toutes les forces en présence. C'est-à-dire que tout bloc, en fait, est conservateur par nature, parce qu'on n'aime pas le changement globalement, qu'on soit jeune, vieux, etc. On est beaucoup plus confortable dans quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît, etc. Donc, si vous voulez susciter un changement, vous avez besoin des forces radicales. Et c'est souvent d'ailleurs des débats que j'ai avec mes amis, c'est-à-dire que même les je sais pas, récemment vous voyez un peu ce qui se passe avec les œuvres d'art, les gens qui sont sur le périph, etc. Et en fait, ça suscite des réactions. On peut être pour, on peut être contre, mais en fait, si vous voulez faire bouger un barycentre, vous êtes obligé de vous nourrir des extrêmes, en fait. Que la forme soit d'ailleurs légale ou illégale, en fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est que sans ça, en fait, vous réduisez évidemment votre mouvement. Et donc pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est hyper important qu'il y ait des gens qui leur disent « Vous faites n'importe quoi, je viens pas chez vous », qui se prennent ça en pleine face et qui pétochent complètement sur la capacité à recruter les talents. Et en même temps, si tous les dégoûtés partent, il reste que les dégoûtants. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver avec des entreprises encore pires. Vous voyez? Et donc, c'est hyper important aussi qu'à l'intérieur, des gens puissent faire levier sur cette action de l'extérieur et dire, en fait, on est en train de mourir. Si on change pas sur ces points-là, effectivement, on va disparaître. Et en fait, c'est que quand une organisation ou une cellule se sent menacée, qu'à ce moment-là, elle accepte le changement et elle bouge. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je pourrais être un peu long.
Merci, Quentin. Et, oui, est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Sinon, Claire Toury, donc, parce qu'on a deux Claires, Vous avez travaillé en association et vous travaillez en association. Vous êtes donc présidente du mouvement associatif. Et est-ce qu'on peut faire carrière dans une association, dans l'associatif, de la même manière qu'on fait carrière en entreprise? Et est-ce que, en un sens, s'engager dans l'associatif en termes d'emploi, c'est une forme de bifurcation ou pas?
Alors, on gagnera beaucoup moins d'argent, ça c'est sûr. Oui, alors on peut faire carrière dans le monde associatif. Il y a 1,8 million de salariés dans les associations en France. Hein, donc, je dis ça tout de suite pour tuer l'idée reçue selon laquelle les associations ne sont pas des acteurs économiques, parce qu'elles sont aussi des acteurs économiques, pas toutes. Sur 1,5 million d'associations, il y en a 20% qui sont employeuses. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 80% qui ne sont composés que de bénévoles, mais sur ces 20% d'employeuses, la plupart ont entre 1 et 2 salariés, et quelques-unes, la Croix-Rouge, la Ligue de l'Enseignement, Médecins du Monde, etc., ont beaucoup, beaucoup de salariés, donc d'où le 1,8 million de salariés à la fin. Après, moi, j'aime pas trop partir du principe que les gens travaillent dans les associations par militantisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas militants ou qu'ils ne peuvent pas le devenir, mais il y a quand même un code du travail, du droit du travail. Enfin, je pense qu'il y a quand même quelques fondamentaux qu'il faut qu'on se garde bien, qu'il faut qu'on rappelle en permanence, parce qu'on a parfois une difficulté, notamment dans les structures associatives avec quelques salariés où les dirigeants bénévoles sont là par militantisme et se disent que celles et ceux qui vont salariés sont aussi hyper convaincus par la cause, sans doute que c'est vrai, mais ils sont convaincus par la cause 35 heures par semaine ou un peu plus selon leur contrat de travail. Bref, voilà, c'est un peu schématique ce que je dis, mais je pense que c'est assez important de le rappeler. Une fois que j'ai dit ça, ça reste quand même un espace qui est très différent de l'espace entrepreneurial classique, parce que dans une association, il y a une gouvernance démocratique, il y a une gestion désintéressée et surtout très très important, c'est des structures qui sont non lucratives. Et ça, c'est pas anodin, en fait. Ça veut dire que vous faites des choix non pas pour vous enrichir, mais vous faites des choix pour servir le projet que vous êtes en train de porter. Et ça nous amène à des situations qui sont qu'il faut qu'on porte assez fortement. Alors ça nous éloigne un peu du sujet, mais il y a des espaces ruraux notamment, par exemple, s'il n'y a pas d'acteurs associatifs pour s'occuper de l'aide à domicile en milieu rural, ben, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que l'acteur associatif pense l'accompagnement non pas dans une logique de rentabilité, mais dans une logique de projet. Et donc voilà, donc il y a quand même des nuances qui sont fortes, qu'il faut marteler, et c'est aussi pour ça que le monde associatif reste un monde assez attractif, même si c'est pas dans ce monde-là que vous allez devenir riche, encore une fois, mais c'est pas toujours l'enjeu.
Mais peut-être, juste pour rebondir là-dessus, je trouve que le grand mal de notre temps sur ces questions-là, c'est que en fait, le propre du capitalisme financiarisé, c'est de vouloir s'insérer partout et de créer des modèles économiques hyper profitables. Et en fait, il se joue aujourd'hui du grand flou, et notamment, je pense, de la capacité idéologique, notamment des forces de gauche, mais pas que, à savoir quand même découper notre économie par secteur et à un moment décider collectivement quelle place on veut donner soit au public, soit au parapublic, soit à l'associatif, à l'ESS ou au privé for profit, quoi, vraiment au sens large. Et en fait, ça arrive à des situations loquaces où, par exemple, Orpea, les gens découvrent qu'une société cotée, ça peut pas faire du care, enfin, du soutien aux personnes âgées, en fait.
Vous pouvez rappeler Orpea pour.
Orpea, c'était donc une. Non, c'est encore plus drôle que ça, parce que Orpea, donc c'est une société qui était cotée, et il y avait un fonds d'investissement qui s'appelle Mirova, qui se targue d'être un fonds à impact extraordinaire, mais qui quand même a des très bons résultats. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils équilibraient leur portefeuille, parce qu'en fait, Orpea dégageait énormément de dividendes. Ils crachaient beaucoup de dividendes aux sous-jacents, notamment en faisant des économies sur les biscottes des personnes âgées. Et en fait, ils ont découvert effectivement qu'ils avaient cette société à leur portefeuille et qu'elle se comportait comme ça, ce qui montre en plus en termes juste de responsabilité fiduciaire de la part des investisseurs qui se disent responsables, un truc un peu inquiétant, ouais.
Pardon, juste, je dis un mot là-dessus aussi, parce que le scandale Orpea, il y a les fossoyeurs, je ne me rappelle plus l'auteur de... Merci. Et en fait, ce truc, je ne dis pas que les structures associatives, EHPAD, équivalents, etc., sont parfaites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérives et je ne dis pas qu'il n'y a pas des maladresses, des problématiques, parce que c'est aussi des espaces où il y a des métiers en tension, voilà. Mais par contre, jamais de la vie, vous allez avoir du rationnement sur des biscottes pour que le PDG puisse avoir des millions d'euros. Enfin, c'est totalement délirant. Et donc ça, c'est quand même... Enfin, moi, en lisant ce bouquin, je me suis rendu compte à quel point il y avait des espaces, des secteurs qui ne pouvaient pas être mis entre les mains des du capitalisme à outrance, quoi. Enfin, il y avait vraiment des trucs totalement délirants, et ça veut pas dire que tout doit être géré par le public. Enfin, je pense que le modèle associatif, l'économie sociale et solidaire, ça apporte autre chose, et c'est intéressant, voilà, de le dire. Mais il y a des structures qui doivent être vraiment protégées. Et je trouve que, voilà, cette espèce d'état social qui a un peu déserté, c'est un problème. En fait, c'est vraiment un problème.
Mais surtout, l'exercice est sain intellectuellement parce qu'il permettra de constater qu'il y a peut-être des endroits, au contraire, où le public se justifie plus. Et que voilà. Du privé est plus efficace.
Exactement.
D'autres, au contraire, où il y a des monopoles, en fait, par nature. Je pense aux autoroutes, par exemple, vous n'allez jamais construire deux autoroutes côte à côte pour les mettre en concurrence. Et où là, le privé ne se justifie pas. Et donc, et je pense que ça manque vraiment, en fait, de faire cet exercice.
Et donc, on voit que les associations, elles ont un intérêt, elles peuvent jouer un rôle dans la vie économique. Mais donc, dans l'idée, peut-être, d'un changement, de faire changer les choses, de faire advenir plus de justice sociale, plus de justice climatique, pourquoi est-ce que ce serait pertinent finalement de s'engager dans une association, peut-être Claire Toury, j'ai envie de m'engager pour faire changer les choses, pourquoi est-ce qu'en étant bénévole dans une association, c'est le bon lieu?
Alors, les associations, juste si on reprend un peu la base, parce que c'est quoi une association finalement? Une association, c'est deux personnes au départ, c'est la contrainte. C'est deux personnes qui décident de se rassembler pour porter un projet, pour défendre une cause, pour animer un territoire. La contrainte, c'est d'être deux. Il faut être dans une gestion non lucrative, voilà. Et puis, il faut déclarer qu'on existe. Quand on veut être une association, la 1901, on peut être des associations de fait par ailleurs. Donc, c'est vraiment très, très peu contraignant. C'est un espace qui est extrêmement libre, mais c'est surtout un espace qui vient des citoyens eux-mêmes, qui vient des individus eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une des forces. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui dit que dans les agents de confiance, alors il y a la sécurité, c'est pas forcément rassurant, mais un des espaces de confiance les plus forts restent les espaces associatifs qui sont perçus par les Français à 61% comme des espaces de confiance. C'est pas 100%, mais c'est quand même plutôt intéressant au regard des autres espaces d'engagement dont on parlait tout à l'heure. Donc du coup, moi je trouve que c'est un espace qui est hyper intéressant parce qu'il est très connecté avec le terrain. C'est très local, c'est très ancré, ça vient des individus eux-mêmes. Et donc pourquoi c'est intéressant dans le fait de pouvoir trouver quelque chose en s'engageant, c'est que ça donne du pouvoir d'agir. En fait, c'est ça qui est vachement fort, c'est que dans une association, vous allez vous réunir pour répondre à un problème, mais vous allez répondre à un problème par rapport à une expérience vécue. C'est très réel, c'est très ancré dans le réel, et c'est pas des solutions qu'on vous impose d'en haut, pardon, parce qu'on pense que c'est les bonnes solutions aux problèmes qu'on a identifiés d'en haut. Enfin, je dis en haut comme si c'était un tout très lointain, mais vous voyez l'idée. Mais c'est des problèmes que vous allez construire collectivement ensemble, et ça c'est aussi important, la dimension collective, sur des situations qui sont vécues par les habitants, par les individus, et ça donne vachement de pouvoir d'agir. Je vous donne un exemple très concret. Dans le cadre du CESE, on est allé dans les quartiers nord de Marseille pour discuter avec des jeunes, bref, et donc on discutait avec ces jeunes-là. Ils nous expliquent qu'ils se sont réunis en association. Pourquoi ? Parce que le stade de foot sur lequel ils avaient envie de jouer n'était jamais éclairé après 18h. Sauf que en été, c'est pas très grave. En hiver, s'ils veulent jouer, c'est un peu embêtant. Et donc du coup, ils se sont réunis. Donc ils ont été accompagnés par une structure d'éducation populaire qui agit là-bas. Ils se sont réunis et donc pour constituer leur club sportif et puis aussi pour essayer d'intervenir auprès de la mairie pour que ce fameux stade de foot soit éclairé, qu'il y ait des éclairages au-delà de 18h dans le quartier dans lequel ils se trouvaient. Donc vous voyez, c'est des problèmes qui sont très concrets, c'est pas des problèmes supposés, fantasmés, et donc ça donne une forme de pouvoir d'agir pour essayer de répondre à des solutions. Après, je rejoins ce que disait Claire juste avant, ça donne beaucoup de force, le monde associatif, l'espace associatif. Moi, souvent, je dis que c'est un exercice démocratique en soi que d'être membre d'une association, parce que vous vous retrouvez avec des gens que vous aimez pas forcément, faut le dire, qui pensent pas forcément comme vous tout le temps. Faut le dire aussi, et avec qui vous iriez pas boire des bières, faut le dire aussi, mais par contre pour un projet, une cause, pour quelque chose, vous allez mettre votre force, votre intelligence, votre envie ensemble, en commun, pour essayer de faire advenir un changement. Donc je trouve que ça c'est vachement intéressant, parce que ça apprend le compromis, ça apprend la nuance, mais ça apprend aussi une certaine forme d'exigence, tout en étant dans le respect de l'autre. Donc c'est un exercice qui est hyper puissant et mobilisateur. Par contre, c'est pas c'est pas le monde associatif tout seul qui va réussir à changer le monde. Et ça, voilà, je pense que je rejoins ce que tu disais juste avant. Il y a des enjeux qui sont macro, qui dépassent la puissance associative. Par contre, là où je mettrais un peu de nuance par rapport à ce que tu disais, c'est que si les changements doivent être macro et structurels et qu'on a besoin de décisions politiques fortes pour que ça puisse advenir, on a aussi besoin que les gens se sentent concernés et se sentent, enfin, ils comprennent ces enjeux-là. Et ça, le modèle associatif est un puissant levier pour ça. Les structures d'éducation populaire sont des structures associatives pour la plupart, et elles font un travail formidable d'accompagnement, d'acculturation, de prise en main de sujets qui sont parfois complexes, en montrant qu'il y a des réponses qui sont très concrètes, qui peuvent être apportées, et que les citoyens, même si tout seuls, ils vont pas changer le monde, eh ben ils vont peut-être quand même pouvoir y contribuer, et donc comprendre aussi pourquoi des décisions peut-être un peu plus radicales doivent être prises au niveau politique.
Ok, donc les assos comme qui donnent du pouvoir d'agir et qui fait que les gens se sentent concernés. Est-ce que l'un de vous veut réagir, ajouter quelque chose, Quentin?
Non, peut-être justement sur cette bonne coordination des forces. Hein. Je vais donner peut-être l'exemple de ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, dont vous connaissez la relative réussite dans l'application des mesures qui en sont issues. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de se battre sur combien ont été adoptés, dans quelle intensité en fait. Parce que globalement, franchement, c'est quand même assez décevant. La vraie question, c'est pourquoi. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que de un, faut pas oublier que jamais ce truc aurait existé, et on a aucun mérite. Hein. Nous, on l'a juste, à un moment donné, on a rassemblé des gens, et on a réussi à faire masse critique avec un mélange de gilets jaunes, de chercheurs, de citoyens, de personnalités connues, et on a pu négocier ça avec l'Élysée et ensuite le mettre en place. Mais ça n'aurait jamais arrivé sans le mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que, par nature, le pouvoir n'aurait jamais été susceptible de laisser exister cette parenthèse démocratique. S'il n'était pas complètement désespéré. Mais par contre, on a vu que aussitôt que le mouvement dans la rue a disparu, l'outil a perdu de sa superbe, automatiquement. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous avez un exercice avec 150 citoyens tirés au sort, on a abouti à des résultats qui sont, et ça je vous invite à aller parcourir le rapport, ça me ferait plaisir qu'ils servent un peu encore aujourd'hui. Déjà, c'est frappant parce que de modernité, c'est-à-dire qu'en fait, tous les débats qu'on a actuellement encore, en fait, ces questions sont tranchées dans le rapport. Mais surtout, il est de très grande qualité dans la technicité, etc. Parce qu'en fait, les citoyens, quand on les met dans les bonnes conditions, sont tout à fait à même de trancher ces questions-là. Le seul problème, c'est qu'ils remettaient en cause des groupes d'intérêts divers et variés, certains légitimes, d'autres moins. Et le problème, c'est que à partir du moment où vous sortez ces conclusions, elles vont venir dans les mains du politique. Donc là, en l'occurrence, elles sont passées d'abord par l'administration qui va rédiger le texte et ensuite à l'Assemblée nationale, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu une puissance de feu de lobby qui a été hors du commun pour vraiment tirer à bout portant sur l'ensemble des mesures qui gênaient leurs intérêts. Et là, si le lien n'est pas fait avec le corps social, si vous n'avez pas mobilisé l'ensemble des corps intermédiaires, s'il n'y a plus de gens dans la rue, eh ben les mesures sont totalement édulcorées. Et donc, en fait, voilà, je vous réponds à la question de ce soir, mais ça ne marche qu'ensemble. C'est-à-dire que il n'y a pas une voie royale. Je crois que ça répond et ça correspond surtout à des moments de vie. Des énergies personnelles, quoi, de temps que vous avez aussi à consacrer à ça. Il y a des moments où vous avez pu se tourner vers vous, vers une famille à construire ou à chérir. Parfois, vous avez plus de temps disponible parce que c'est un travail moins prenant, moins dur. Et donc, en fait, je pense que le bon exercice, c'est justement de passer de l'un à l'autre. Et que toutes les dérives qu'on connaît, notamment dans les partis politiques, c'est justement d'être en trop grande dépendance d'un choix et de pas garder justement cette agilité de pouvoir changer.
Merci. Benoît Algan, vous souhaitez réagir ?
Moi, je peux peut-être rajouter quelques mots sur... je pense que agir en association, c'est très efficace. Et parfois, on peut se dire, c'est à l'État d'agir et on attend ou l'État ou l'institution d'agir. Et ça ne devrait pas être l'association. Et en même temps, je pense que quand ça vient de la base, il y a parfois un pouvoir et une motivation différente qui naît et qui a plus de pouvoir, plus de force. Moi, je peux donner un exemple dans ce que j'ai fait à Polytechnique. Claire, tu disais que on était très mal formés dans nos écoles à l'appréhension des problèmes écologiques, à la compréhension à ce qu'il faut faire. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait les deux, c'est-à-dire on s'est dit, ben, en fait, on va se former nous-mêmes et on va organiser des conférences, un cycle de conférences, et on va se mobiliser entre étudiants. Et puis, à côté de ça, on va aussi demander à l'institution, à l'école, de mettre des cours parce qu'il devrait y avoir des cours obligatoires. Et ben, je pense que cette solution de nous former nous-mêmes, elle est presque plus efficace que les cours obligatoires parce qu'en fait, chacun se sent impliqué, se sent investi, cherche ensuite par lui-même et se politise aussi, je pense, davantage. Alors que quand c'est un cours obligatoire qui vient de l'école, c'est vu comme une contrainte presque et on sent qu'il n'y a pas forcément la même émulation derrière. Donc moi, j'aime beaucoup ce levier associatif et quand les gens s'engagent et le décident.
Merci. Claire Lejeune, vous souhaitez réagir ?
Oui, rapidement, juste pour compléter, parce que je pense qu'en fait, on a un accord global sur la complémentarité des modes d'action. Juste par rapport à l'action associative, moi, j'ai une inquiétude aussi dans un contexte de précarisation croissante et de désengagement croissant de l'État et de la puissance publique sur de plus en plus de secteurs. En fait, ça va de plus en plus, du coup, reposer sur les épaules des militants associatifs de bonne volonté, etc. Nous, on le voyait très clairement sur la manière dont l'accueil des personnes exilées était géré à Lyon. Et du coup, ça pose cette question de la prise en charge par ceux qui peuvent, ce qu'on tend, de missions qui devraient être clairement financées, prises en charge par la collectivité. Mais l'associatif, effectivement, a ce rôle très important d'alerte, c'est-à-dire que nous, dans l'asso qu'on avait à Lyon, on faisait à la fois le travail, mais on le faisait en disant à quel point c'était anormal que ce soit des étudiants et des jeunes qui fassent le travail de l'État là-dessus. Donc les deux vont pas souvent de pair d'ailleurs. Après, une autre raison pour laquelle moi j'ai choisi l'engagement plutôt du côté d'une tentative de prendre le pouvoir au niveau macro, c'est que moi, quelque chose qui me trottait beaucoup dans la tête lorsque je militais à Lyon dans une asso, c'est que je me disais ceux qui ont eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, la bonne asso, la personne qui a pris le temps de regarder leur dossier, de dire ok, on va vous accompagner sur votre demande d'asile, nous on arrivait sur une année à le faire pour peut-être 50, 60 personnes, mais il arrivait 50, 60 personnes par jour à Lyon. Donc ça crée une espèce aussi pour les personnes qui sont scolarisés dans des institutions ou des écoles où il y a un groupe d'étudiants qui se forment, qui organisent des choses, etc., tant mieux pour eux. Mais c'est des choses sur lesquelles on a besoin de passer à l'échelle, que ça concerne tout le monde. Donc je pense que c'est essentiel comme aussi un incubateur d'initiatives, de choses qui se créent, etc. Mais après, le passage à l'échelle est vraiment essentiel. Pour aussi assurer une égalité et sur les questions écologiques, une transformation qui soit véritablement systémique. Et là où, en fait, j'avais arrêté mon propos sur mon intervention précédente, c'est en fait cette idée que le réseau associatif et tout le maillage de mouvements citoyens est absolument essentiel, c'est que effectivement, même si on avait gagné en 2022, si la gauche et l'écologie politique avaient gagné, ça aurait été que le tout début du travail et on n'aurait rien pu appliquer sans accompagnement et sans mouvement citoyen d'ampleur. Par exemple, la thématique sur laquelle je travaille en tant que chercheuse, la planification. En fait, il y a une vraie question sur la verticalité que ça peut susciter. Et en fait, ça ne marchera pas sous une forme verticale parce que la contrainte imposée comme ça du haut par des fonctionnaires avec des lettres depuis Paris, juste ça ne marchera pas. Et il y a plein d'initiatives qui justement nous aident à penser une forme de reprise en main par le politique de l'économique, mais avec un ancrage local. Enfin, moi, une des choses que je regarde beaucoup, c'est les territoires zéro chômeur, où en fait, on a un diagnostic local des besoins du territoire. Donc ça part vraiment de choses très très locales et portées par voilà une collectivité. Et je trouve que c'est des choses assez inspirantes pour penser justement l'articulation et le va-et-vient entre le niveau très local et puis le niveau plus institutionnel et la production de politiques publiques. Voilà.
Claire Toury, peut-être sur la question du désengagement de l'État et du rôle des associations.
Ouais, enfin deux choses.
Et puis après.
Oui, alors non, mais moi je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Enfin, il y a des endroits où c'est absolument scandaleux. Il n'y a plus personne à part des associations. Enfin, je trouve que c'est une honte. Et donc je parlais de l'absence d'État social à certains moments. Ça, c'est pas normal en fait. Moi, je trouve que c'est formidable que les associations s'emparent de plein de choses. Et je pense que c'est une manière de s'en emparer qui est assez différente de l'État et qui apporte voilà un autre regard, une autre manière de traiter un problème. Donc ça me pose pas de problème que des associations s'occupent d'accompagner des personnes qui sont en train de demander l'asile. Par contre, ça me pose problème que ça ne soit que les associations qui puissent le faire et qu'il n'y ait pas une intervention de l'État pour s'assurer qu'il y ait une égalité face une égalité face aux inégalités, c'est pas très juste ce que je veux dire, mais vous voyez qu'il y a une solidarité nationale qui s'organise. Ça je rejoins. Mais le revers de ça d'ailleurs, c'est que on a parfois pas d'État social, mais on n'a pas non plus un État qui nous fait confiance. Et donc on se retrouve, on en parlera après quand on parlera des obéissances civiles, mais on se retrouve face à des injonctions de l'État en tant qu'acteur associatif qui sont parfois totalement délirantes et qui, en fait, vont contraindre l'action associative, alors parfois la contraindre politiquement, mais aussi parfois la contraindre pratiquement, parce qu'on va nous imposer des contraintes bureaucratisées, les demandes de financement, enfin tout ce que vous voulez, et du coup, on se retrouve dans une situation qui est très contradictoire, parce qu'on a des grands discours sur l'importance de l'action associative, tout ce qu'elle permet à la nation, etc., mais des contraintes qui sont extrêmement frustrantes pour les personnes qui s'engagent. Par contre, juste un truc, parce que moi, on m'a dit qu'à une époque, il y avait un État stratège fort. On me dit, ça, voilà, il y a une époque où il y avait un État stratège, mais clairement, il n'y a plus d'État stratège, maintenant, ça n'existe plus, et donc... Quand j'entends ça, je me dis, bon, bah, s'il n'y a plus d'État stratège et qu'on a envie quand même que des choses soient portées, qu'il y ait une action publique efficace, qui réponde à des besoins, qui soit sociale, mais en même temps, enfin voilà, qui soit vraiment ambitieuse, ben, on a besoin des acteurs associatifs. Et d'après ce que, quand j'entends les plus anciens, clairement, on n'est plus du tout à une époque où on a un État stratège fort qui est en capacité de penser une action publique qui soit vraiment ambitieuse. Et c'est là où on a besoin d'acteurs associatifs ancrés sur le terrain. Tu parlais de territoire zéro chômeur de longue durée, mais ça vient des acteurs associatifs au départ, cette initiative-là. Donc voilà, enfin, c'est une bonne articulation qui me semble essentielle.
Merci. Et bien justement, on va passer à la question du rôle de l'État. Et donc, pour prendre le contrôle dans l'État, d'abord, peut-être s'encarter dans un parti politique, faire campagne. Et justement, Claire Lejeune, vu de l'extérieur, un parti, ça peut être un peu un milieu de requins où la lutte pour le pouvoir des individus passe au-dessus des idées politiques. Donc finalement, ça paraît assez inaccessible, le fait de participer en politique, de rentrer dans un parti. Peut-être vous, comment vous avez dépassé ces freins pour vous engager? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vu de l'intérieur, à quoi ça ressemble un parti politique et comment c'est de s'engager dedans?
Alors, a priori, j'ai essayé de ne pas devenir un requin, quand même. Il y a inévitablement de la conflictualité qui traverse l'interne d'un parti politique et qui traverse toute la société, en fait. Hein. Après, je pense que c'est important d'arriver à faire la part des choses entre une conflictualité effectivement nocive et contre-productive qui est basée sur des querelles d'ego, des choses liées à l'attrait du pouvoir, etc., qui existent inévitablement. Et une conflictualité qui, pour le coup, est productive parce qu'elle est basée sur du fond politique, sur du débat d'idées. Et en fait, parfois, même au sein des structures partisanes, on n'est pas forcément d'accord avec nous sur du fond politique, sur des objectifs stratégiques. Et j'ai envie de dire, heureusement que ça existe, ça. Et que on peut débattre au sein d'un parti. Voilà. Après, la fonction... La mission que se donne un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Donc, il y a un moment, il y a effectivement une ligne d'ensemble qui est après élaborée dans un programme politique. Et il y a un collectif, donc les militants du parti, qui s'engagent à porter ce programme. Ce qui ne veut pas dire qu'ils s'effacent complètement et qu'ils sont d'accord avec la virgule près de ce qu'il y a écrit et de ce que disent les représentants. Mais ça veut dire qu'on est assez d'accord sur l'idée que ce programme-là, cette vision de la société-là, c'est important qu'elle soit victorieuse dans l'élection ou la campagne à venir. Et du coup, on va se battre pour ça. Et on va du coup passer peut-être moins de temps et d'énergie à se concentrer sur la phrase dans laquelle ou le sujet sur lequel on est moins d'accord, et plus d'énergie sur le fait de porter le programme collectivement. Donc je pense que et quelque part il faut pas être naïf sur l'ampleur du rapport de force qu'il va falloir amorcer si on veut que les choses changent, en fait. Ça va être très dur. Et donc, quelque part, la dureté qui peut y avoir dans le monde politique, elle est aussi le reflet de la dureté des conflits qui s'opposent entre des personnes qui ont intérêt à ce que rien ne change et à ce qu'on aille collectivement dans quelque chose qui est quand même un mur, et puis ceux qui essayent de faire en sorte qu'on bifurque collectivement. Donc, et je dirais pas que c'est un milieu dans lequel c'est facile de naviguer, et notamment en tant que jeune femme, ça pose des questions et des problématiques, mais il y a aussi des aspects positifs. Il y a énormément de camaraderie. Moi, j'ai rencontré des amis et des personnes assez formidables dans ce milieu-là. Donc, c'est ni blanc ni noir. C'est ce que c'est dans un milieu où, en fait, effectivement, il y a de gros enjeux de pouvoir qui se jouent. Mais penser qu'on va pouvoir en faire l'économie, je pense que c'est pas possible. Après, c'est des questions de... je pense qu'on gagne à considérer le champ militant comme un espèce d'écosystème où il y a des espaces qui se chargent de fonctions différentes. Et en fait, chacun, avec nos personnalités, ce qu'on peut, ce qu'on veut faire, on trouve sa place, en fait. Et ça dépend aussi de moments dans nos vies. Moi, à un moment, j'étais très impliquée dans l'associatif, sur le terrain. Là, je suis dans un moment où... j'ai ma thèse et puis je continue de militer dans une structure partisane et j'y trouve complètement mon compte. Dans 3 ans, peut-être, ça sera différent, en fait. J'arrêterai jamais de militer, mais je pense qu'il y a des temporalités, différentes, bien sûr. Ouais. Et donc, je vais m'arrêter là.
Peut-être est-ce que parmi vous quelqu'un veut réagir là-dessus
Ouais, alors je vais faire des trucs très vite et puisqu'après je voudrais vous donner la parole, mais je vais lâcher un peu quelques petites idées rapidement. Donc Déo, nous on a milité depuis longtemps, ça fait 8-9 ans hein,
démocratie,
sur des
ouais.
questions de démocratie, excusez-moi, les acronymes horribles. Donc parce qu'on est convaincu qu'on vit une crise démocratique assez profonde. Donc moi j'ai une obsession un peu de la gouvernance en général dans les organisations parce que ça, en fait de cette grille d'analyse là vous pouvez prévoir beaucoup de choses et je fais un petit clin d'œil parce qu'on est quand même on n'est pas dans un endroit anodin, on est quand même au centre Sèvres. Si vous faites l'exercice un peu de cette question de gouvernance et de structuration de l'organisation sur l'Église, vous arrivez un peu à la situation dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire que opacité, personne ne sait comment les décisions sont prises, qui, comment est nommé, etc. Enfin, vous ne pouvez arriver qu'à ça, en fait. C'est malheureux, mais c'est écrit, en fait. Et donc, ça ne changera. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, si vous ne changez pas les règles du jeu, vous pouvez relancer les dés 100 fois, vous aurez toujours le même résultat, quoi. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Globalement, je pense qu'on traverse une période assez bizarre parce que, de manière générale, les organisations collectives qu'on connaît, qui sont assez structurantes dans la société, traversent toutes des crises. Et là, on est vraiment des crises d'organisation, de mobilisation, avec, on parle des syndicats, on parle des partis politiques, etc., qui sont quand même globalement en train de s'affaisser, qui perdent les gens, en fait. Hein. On est en système démocratique, à une énorme fuite, l'abstention monte, et on a un gros sujet pour y répondre, sachant que, comme tu le disais, les gens qui restent, alors je vais pas dire c'est dégoûtant parce que, mais globalement les gens qui restent sont très mobilisés et c'est des gens plutôt conservateurs avec une société qui vieillit et qui a intérêt effectivement à plutôt protéger ses acquis plutôt que de prendre des risques pour demain, quoi. Et comme les jeunes ne vont plus voter, vous voyez, c'est un système qui s'auto-entretient. C'est-à-dire, on essaie de dégoûter les forces qui pourraient apporter le changement. On les dégoûte de participer pour pouvoir bien maintenir la chose, quoi. Et donc, effectivement, à un moment donné, il va falloir quand même réussir à susciter ce sursaut et de dire aux gens, écoutez, il faut au moins qu'on tente une fois, en fait. Parce que sinon, on va juste se regarder et on va mourir à petit feu en étant incapable de répondre, effectivement, aux enjeux hyper pressants du moment, quoi.
Et alors, comment ?
Oui, alors, juste, il y a... Il y a un enjeu qui est, il faut qu'on change déjà les règles de jeu des partis politiques. Parce que globalement dans la vie, dès que vous avez du pouvoir, vous attirez pas forcément les bonnes personnes. Et donc plus vous vous rapprochez soit de pouvoir politique, soit de pouvoir économique, soit parfois même les deux, plus le taux de personnes dérangées psychiatriquement augmente en fait. Hein, et c'est intimement lié. Vous savez, quand les gens ont des épisodes de démence, etc., ils se prennent en fait plutôt pour Dieu ou pour Napoléon, etc. Et en fait, globalement, les gens qui sont au stade un peu en dessous de la démence sont aussi très attirés par ça. Ils sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Et le problème, c'est que les partis politiques ne se sont pas dotés de règles qui permettent de faire en sorte que les gens lambda, normaux, qui ont envie de s'engager, soient protégés. Et on se retrouve dans un système où par le présentéisme, les gens qui ont des vies complètes, vie de famille, un travail prenant, etc., sont écartés petit à petit en fait des postes qui comptent dans les structures et dans les organisations politiques. Et par ailleurs, il n'y a pas aussi en interne des mécanismes de protection, comme on est en train un peu essayer de l'instituer sur les cas évidemment de harcèlement sexuel. Il faut qu'il y ait des mécanismes de protection aussi sur le harcèlement moral, en fait, hein, dans ces structures, parce que c'est aussi une violence très forte qui s'exerce et qu'on retrouve souvent. Néanmoins, si on se met en mode solution maintenant, hein, qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous reste ? On a développé cette idée, je ne sais pas si certains étaient présents la dernière fois quand je suis intervenu ici. Je pense qu'il faut, on n'a pas le choix, étant donné que les partis politiques ont un monopole pour accéder au pouvoir, il faut aller les hacker. Donc ce que fait Claire, ce que font d'autres, il faut qu'on le fasse, mais beaucoup plus massivement. C'est-à-dire que si on laisse les gens dans un entre-soi, dans les organisations politiques, effectivement, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire, nous, on est dehors, on commente, on dit c'est pas bien, puis effectivement, ça finit par être pas bien, quoi. Donc il faut qu'on aille massivement, évidemment, ceux qui sentent l'énergie, et quels que soient vos bords politiques, vos idées, mais en fait, il faut absolument réintégrer massivement ces organisations si on veut se donner une chance un peu de sursaut. Ça, c'est, je pense, la première chose. La deuxième, c'est que le corps social, les associations, etc., doivent absolument s'emparer des sujets, parce qu'il y a, je pense, il y a une confusion qui est particulièrement vraie en France et qui s'explique, mais on n'a pas le temps, mais on confond trop partisans et politiques. Et en fait, il y a beaucoup, je vois beaucoup même, heureusement ça change un peu, mais d'entreprises ou d'associations qui refusent de reconnaître que ce qu'elles font est très politique, extrêmement politique. Et il n'y a pas ce monopole du fait politique et de la chose politique par les partis politiques. Les partis politiques, c'est des structures qui ont vocation à prendre le pouvoir, à gagner des élections, et qui ont oublié une deuxième vocation qui était former massivement les militants, enfin l'éducation populaire, mais politique et citoyenne, voilà. Et peut-être, dernier point, parce qu'on a oublié de le dire, mais quand même très important, merci à tous d'être venus aussi quand même ce soir nous écouter. Moi, je suis agréablement surpris par le nombre. Peut-être ceux en ligne aussi. Ça me...
Il y en a encore.
Ouais. Et ça fait chaud au cœur, parce que c'est des questions centrales. Et donc, je m'arrête là parce que j'adorerais aussi vous entendre.
Peut-être une réaction, Claire Lejeune, ouais.
Ouais, alors j'ai des points de nuance et beaucoup de points d'accord. Je me méfierais d'une psychologisation de ce qui se passe dans les partis politiques. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça, et qu'en fait on gagne pas à décrire les choses ainsi, parce que en fait ce qui se passe c'est aussi très très politique, et que pour ceux qui s'y investissent, on a des vrais leviers en interne, voilà, enfin les cadres des partis politiques sont aussi des personnes que on côtoie au quotidien et qui essayent pour, alors pour certains, essayent sincèrement de faire bouger les choses, y compris en interne. Donc,
attends, juste je rebondis, oui. Je précise, hein, je voulais pas dire qu'il y avait que des fous dans les partis politiques. bien sûr, ce serait extrêmement simpliste, insultant, et c'est pas le cas. Et pour ma part, si j'ai pas été encarté, j'ai été assistant parlementaire, et je sais que c'est composé d'énormément de personnes qui veulent faire bouger les choses et qui sont là avec de bonnes intentions. C'est pas ça que je disais. Ce que je disais, c'est que tout comme la finance, par exemple. La finance, comme globalement, vous savez que vous avez gagné beaucoup d'argent, ça attire beaucoup de gens dérangés. C'est-à-dire qu'il faut juste en avoir conscience. Et c'est quand on reconnaît ça qu'on peut du coup se doter des règles et des fonctionnements pour s'en protéger. La question, c'est pas de dire c'est bien ou mal qu'il y ait des gens qui soient quand même pas là pour les bonnes raisons en politique, dans la finance ou dans des métiers qui concentrent un pouvoir collectif ou économique. C'est juste, il faut le reconnaître, s'en protéger. Et je pense que si on se dote de ces règles-là, vous verrez que il y aura quand même des changements plus conséquents. Et juste dernier exemple, regardez ce qui s'est passé à la primaire populaire. On était assez proche de la primaire populaire. On leur a dit assez tôt, attention, vous n'êtes pas en train de mettre les règles suffisantes en termes de gouvernance pour vous protéger. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les types qui voulaient réinventer la politique sont retombés sur exactement la même pesanteur qu'on retrouve dans le monde politique depuis 50 ans. C'est-à-dire, au bout d'un moment, un petit chef qui est en catimini a manipulé tout le monde à son profit pour ne pas respecter les règles d'un vote qui a mobilisé massivement les gens qui pensaient que c'était une initiative sincère. Et donc, à un moment donné, encore une fois, je vous invite à vraiment regarder de près à chaque fois les questions de gouvernance et de structuration dans les organisations que vous rejoignez ou dans lesquelles vous êtes, parce que ça explique énormément de choses.
Claire Jeanne.
Ouais. C'est bien de préciser. Voilà, je pense que les mots qu'on emploie aussi pour parler des réalités militantes sont très importants aussi. Peut-être pour revenir sur cette idée de l'importance de changer les règles du jeu. Effectivement, il y a un besoin de remobilisation en interne des structures partisanes et de renouvellement aussi générationnel. Pendant la campagne, on a vu aussi beaucoup de jeunes militantes nous rejoindre. Et en fait, tout ça, ça fait bouger les choses. Et par ricochet, à un moment, on arrivera à faire changer la structure en elle-même. Et je pense qu'effectivement, toute l'histoire de la primaire populaire, mais pas strictement sur la question de la gouvernance, est assez emblématique de la difficulté qu'il y a de passer par une structure qui va se poser un petit peu en extérieur, mais tout en étant à l'intérieur du champ politique, et de vraiment faire changer les choses, en particulier dans un moment de campagne où en fait les choses se cristallisent dans les partis politiques. Donc c'est beaucoup plus en amont. Et peut-être effectivement en interne, moi j'y crois en tout cas, qu'il faut s'investir et essayer de faire bouger les lignes, parce que la force déclinante hein, pour certains d'entre eux, des syndicats, des partis, etc., c'est que c'est des structures qui quand même charrient une histoire. Enfin, ça vient pas de rien tout ça. Ça charrie une histoire idéologique, ça charrie des liens humains qui se sont créés sur des décennies parfois, et tout ça en fait, les espèces d'initiatives qui apparaissent très rapidement, etc., avec plein de bonne volonté et de justement et les bons constats sur ce qui va pas fonctionnent pas forcément. Donc on a besoin d'un travail de fond. Là, on est aussi dans une période où il y a moins de campagnes politiques très intenses qui vont être menées dans les mois immédiatement à venir. Donc c'est le moment aussi d'avoir une réflexion sur comment fonctionne un parti, quels sont les comportements qu'on veut y bannir. Comment entend aussi ce qu'on accepte en tant que militant. Moi, je sais que j'ai ma condition pour militer, c'est que je sais très bien ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, et quand j'ai de poser ainsi des limites à ce qu'on est, ce qu'on accepte ou pas. Voilà. Donc voilà. Moi, je suis peut-être plus positive sur ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un parti politique et sur l'importance d'y mettre de l'énergie. Et voilà.
Merci beaucoup. On aimerait bien continuer, mais si on veut parler de désobéissance civile et prendre les questions de la salle, il faut qu'on avance. Et en fait, on n'a pas de désobéissant, enfin de représentant désobéissant à cette table, malheureusement, mais on a prévu une petite capsule vidéo pour essayer de pallier un peu ça.
Les pétitions, les manifestations, parler aux politiques, ça n'a toujours rien changé. Alors voilà où on s'en retrouve. On se retrouve à bloquer des routes. Et oui, ça peut paraître incohérent, mais en fait... Pardon, il y a beaucoup de violence à côté. Mais en fait, au regard de l'illégalité du gouvernement, ce délit n'est rien du tout. En fait, le gouvernement a été condamné pour inaction climatique et nous, on est en train de mettre ça au regard. Est-ce que les vies de toutes les personnes qui meurent de froid chaque année, de tous ces ménages précaires, ne valent pas plus qu'un blocage de 30 minutes sur une autoroute? Des bouchons, en fait, ça existe tous les jours.
Voilà, public Sénat. Donc cette scène a eu lieu il y a une semaine, vendredi 11 novembre, départ en vacances, départ en week-end, sur le périphérique parisien. Et ce sont des militants du mouvement Dernière Rénovation qui ont bloqué le périphérique dans le cadre de leur campagne de résistance civile pour pousser le gouvernement français à accélérer, à mettre en place la rénovation thermique et énergétique des bâtiments, qui est un levier fantastique en termes d'économie carbone. Donc on lit sur le site du mouvement Dernière Rénovation: malgré l'urgence absolue, le gouvernement a trahi sa promesse d'appliquer sans filtre les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, dont celle qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments en France. Il a été condamné par ses propres tribunaux pour manquement à ses propres lois. C'est désormais à nous, citoyennes et citoyens ordinaires, de faire appliquer les engagements auxquels notre gouvernement refuse de se plier. C'est à nous d'entrer en résistance civile. Donc voilà le propos de Dernière Rénovation dont fait partie cette militante. Claire Toury, donc la désobéissance civile, elle est très visible en ce moment dans les médias. Et c'est un mode d'action qui a ses intérêts, ses inconvénients, on pourra y revenir. Avec votre regard de sociologue spécialiste de l'engagement, quelle complémentarité est-ce que vous voyez entre ce mode d'action et les autres formes qu'on a évoquées?
Alors oui, on parle beaucoup de désobéissance civile en ce moment, et c'est assez préoccupant, hein. Il y a quand même... je ne sais pas si vous avez vu passer cet amendement qui a été déposé par Marc Le Fur, un député qui en fait ciblait directement les associations environnementales et notamment les associations environnementales qui étaient dans une dynamique de désobéissance civile en occupant des espaces, etc. Enfin bon, des trucs où on marche totalement sur la tête. Alors il s'avère que cet amendement n'est pas passé. Il l'a déposé dans le cadre du PLF. Projet de loi de finances, pardon. Mais ce type d'attaque à l'égard des associations environnementales, c'est tout le temps en ce moment. Et donc, parmi les membres du mouvement associatif, il y a France Nature Environnement. Hier, on avait un CA et la représentante de France Nature Environnement disait « Oui, c'est très difficile pour nous, mais c'est qu'on est en train de gagner la bataille culturelle ». C'est ça, c'était ça un peu son message. Parce que finalement, s'il y a autant de résistance qui s'organise autour de ces associations environnementales et de ces actions de désobéissance civile à certains moments en faveur de la transition écologique, c'est que ça commence à prendre en fait dans la population française, et ça, il y a une crainte assez forte qu'on trouve chez les lobbies, et c'est là où c'est un peu David contre Goliath, parce qu'on n'a clairement pas on n'est pas du tout armé de la même manière, et il faut être vigilant en permanence tout le temps pour pas se laisser avoir. Enfin, ça c'était mon premier point. Et si, quand même, un autre point sur la désobéissance civile, on a quand même une ministre, Sonia Backès, pour ne pas la citer, qui est en charge de la citoyenneté, qui a sorti une tribune qui a dit quand même, c'est hallucinant, hein, que la désobéissance civile, c'était du séparatisme. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi visant à conforter les principes de la République, et notamment de la mise en place d'un contrat d'engagement républicain, qui n'a de contrat que le nom, que toutes les associations subventionnées ou agréées doivent désormais signer, et dans laquelle elles s'engagent à respecter les principes de la République, elles s'engagent à respecter la loi, bon jusqu'ici c'est pas une zone de non-droit, mais surtout, elles s'engagent à ne pas troubler l'ordre public. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que troubler l'ordre public? Par exemple, quand ACT UP met un préservatif géant en place de la Concorde, il y a quelques années, dizaines d'années maintenant, pour alerter sur le sida, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? Bah, sans doute, ça dépend, selon le préfet, ce serait un trouble à l'ordre public, et donc ça pourrait avoir des conséquences très graves. Bref, je vous dis ça parce que c'est quand même pas juste un mot comme ça, la désobéissance civile. Il y a, il y a, il y a, Il y a des forces politiques très fortes et économiques qui veulent contraindre certaines formes d'action. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que je considère que tout doit passer par la désobéissance civile. En fait, je pense que le dialogue, la co-construction, l'interlocution avec les pouvoirs publics, elle est aussi absolument nécessaire. Vous présentez cette vidéo, mais qui est très importante. Il faut des actions comme ça, il faut de la radicalité. Et je crois d'ailleurs qu'on retrouve ça beaucoup dans les aspirations des très jeunes, dans les nouvelles formes d'engagement, à plus de radicalité pour que ça aille plus vite, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que des négociations trop longues aient lieu, pardon. Mais dans le même temps, il y a des collectifs qui existent. Je pense au Pacte du pouvoir de vivre, qui est un collectif initié par la CFDT, par la Fondation pour la Nature et l'Homme, et surtout aussi par la Fondation Abbé Pierre, qui rassemble 65 organisations aujourd'hui, avec des propositions très fortes pour faire converger transition écologique et justice sociale. Et parmi les membres, donc je vous parlais de la Fondation Abbé Pierre, ils agissent tout le temps en permanence pour influer aussi sur les politiques publiques, pour qu'il y ait un investissement fort dans le logement. Alors ça prend du temps, mais je crois que c'est ces deux espaces, en fait, enfin c'est ces deux manières de militer, de s'engager, qu'il faut qu'on arrive à bien articuler, parce que à un moment il faut quand même qu'il y ait du dialogue, sinon la transformation n'est pas toujours évidente et ça peut créer de la rupture. Et voilà, enfin il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple.
Benoît Alguin, vous souhaitez réagir sur la désobéissance civile pour faire front commun ou pas?
Oui, moi je pense qu'on a besoin de toutes les formes d'engagement, et notamment des engagements plus radicaux comme la désobéissance civile, pour que les autres engagements soient, au fait, peut-être paraissent moins radicaux, mais du coup soient plus crédibles. Et puis je pense que c'est aussi l'expression d'une colère qui est légitime, que tout le monde ne peut pas aller faire du plaidoyer, tout le monde ne peut pas s'engager dans les partis politiques parce que certains sentent que c'est pas leur place, et qui a aussi vraiment besoin de ce genre d'action qui clive, c'est sûr, mais en même temps on est sur des sujets clivants. Je pense que c'est pas forcément un problème.
Quelqu'un souhaite réagir? Ouais.
Juste, je tentais une espèce de synthèse, parce qu'on essaie de se mettre en mode solution. Alors un peu, en gros, ce dont on parle, c'est quand même susciter le changement. Comme on l'a dit, il y a une masse conservatrice qui tient le pouvoir démocratique et qui effectivement se nourrit économiquement sur la bête et accentue cette pression. Donc il faut que, pour susciter le changement, il va falloir qu'ils aient chaud. Et pour le faire, il nous faut pas mal d'outils différents. Il faut des contre-exemples enviables. Donc ça veut dire que il faut que des gens soient sur l'associatif ou dans les entreprises ou même dans des projets d'autonomie. Ils arrivent à trouver des solutions. Il nous faut des gens qui mettent en place ces solutions, montrent que ça marche pour qu'on puisse avoir envie de les généraliser. Deux, il faut une mobilisation massive à tous les échelons. Et ça, j'insiste, c'est-à-dire que sans ce mouvement social, on ne peut pas faire en sorte que le pouvoir conservateur lâche et renonce à ses privilèges. Il nous faut des gens à l'intérieur. Il n'y a pas de changement sans des insiders en mauvais français, mais des gens qui, dans ces organisations, ont des marges de manœuvre, savent où est-ce qu'il va falloir appuyer et utiliser du coup la mobilisation extérieure pour susciter le changement. Et vraiment, j'insiste là-dessus avec une réserve, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je crois que Claire est revenue là-dessus, sur le besoin de changer, d'alterner dans sa vie en fonction un peu de son énergie intérieure. Souvent, les gens qui disent « je vais changer de l'intérieur », ils disparaissent, parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous oubliez le changement, en fait, c'est naturel. Et donc, c'est très important, encore une fois, d'alterner des phases, parce qu'après, sinon, en fait, vous êtes plus bon dans ce que vous faites, vous perdez. Et dernier point, évidemment, c'est qu'après tout ça, il faut aussi un outil de prise de pouvoir. Donc, on peut appeler ça parti politique, organisation politique, comme vous le voulez, mais à un moment donné, à moins que vous envisagiez des outils révolutionnaires, il va falloir gagner des élections.
Claire Lejeune, c'était réagir?
Oui, peut-être pour revenir sur la question de la désobéissance civile, qui, en fait, je pense qu'elle s'accentue, et c'est pas pour rien, parce que la colère s'accentue, et légitimement. Et en fait, les mouvements que ça produit dans la société, en fait, ça on voit toutes les tensions, toutes les personnes qui en fait ont du mal du coup à voir aussi ce que pourrait signifier ce changement, se rétracter, se crisper là-dessus. Donc c'est aussi très utile pour identifier les points de crispation dans la société qui viennent parfois d'endroits où on s'y attendait pas. Par exemple, moi, quand il y a eu l'action de désobéissance civile sur avec la soupe. J'ai vu des personnes réagir de manière super vive et scandalisée, et je m'attendais pas à ce qu'elles réagissent comme ça. Je m'attendais peut-être à un silence ou à, mais voilà. Donc c'est utile aussi pour voir comment évoluent les choses et surtout en fait, au-delà de la question d'être en soutien ou pas, ça va exister. Hein. Je veux dire, on est dans une situation où on a un système politico-économique qui est en train de détruire les bases de vie sur Terre. S'attendre à ce qu'on reste les bras croisés en faisant rien, à ce que les jeunes générations disent rien en pouvant même pas se projeter à 10 ans, 20 ans, en se posant la question d'avoir des enfants ou pas à cause de ces questions-là. Enfin, je veux dire, c'est inévitable. Ça va s'amplifier, quelles que soient les lois qui passent d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui est prêt à aller mettre sa main sur l'autoroute, à se coller la main avec toute la violence, on a vu un petit peu la violence de cette scène, penser qu'elle va dire « Ah ben non, quand même, il y a une loi, je vais quand même pas faire ça », c'est faux. En fait, les gens, ils vont aller en prison. Enfin, je veux dire, ça a existé. La raison pour laquelle on a le droit de voter, nous, les femmes, c'est que des femmes sont allées jusque-là. Ça a été beaucoup rappelé à quel point les grands changements politiques, ils sont passés par des mouvements radicaux. Et justement, c'était très important ce que t'as dit, Benoît, je trouve, sur le fait que, en fait, tout cet écosystème d'activistes très radicaux, ça permet aussi à tout le reste d'avancer plus loin, plus vite. Donc bien sûr qu'il faut une solidarité avec ça et que c'est absolument essentiel, mais il faut aussi toutes les autres briques que t'as évoquées et notamment la brique prise de pouvoir. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, nous du coup, la gauche, enfin l'Union populaire et la NUPES plus globalement au sein du Parlement, il y a une grosse, enfin il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour nous faire passer pour des radicaux, des dangereux, etc. C'est vrai que bah du coup ça simplifie les choses. On n'est plus trop des écologistes radicaux qui demandent la lune lorsque effectivement dans le milieu militant la part de personnes qui s'impliquent dans des actions plus radicales augmente. Voilà. Donc voilà.
Merci Claire Toury. Et après on prendra les questions. Ou on peut prendre les questions maintenant.
Ouais, bon.
On va prendre les questions. Bravo. On va faire tourner un micro. Sinon, nous, on en a plein. Ah, il y en a une au fond.
Bonsoir. Merci pour cette présentation, enfin cette discussion. J'avais deux questions. La première, vous avez plutôt insisté sur l'unité entre la bifurcation, la désobéissance, le fait de s'encarter. Je me demande, est-ce que cette vision est partagée du point de vue de ceux qui sont plutôt dans la désobéissance civile ? Est-ce que eux, ils verraient pas plutôt une opposition assez radicale entre ceux qui sont dans l'institution et ceux qui sont vraiment engagés pour eux ? Et la deuxième, enfin désolé, je fais pas des trucs super sympas, mais est-ce qu'il n'y a pas une surestimation aussi de ce qu'on veut voir advenir ? C'est-à-dire que vous êtes tous d'accord sur le changement, mais ce changement-là, quelle nature il a, quelles conséquences il apporte, quel périmètre il recouvre aussi, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est en Europe, est-ce qu'on va vraiment jusqu'à la coopération avec le Sud ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, là, de surestimer cette unité dans la direction du changement ?
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut en prendre deux ou trois, et puis, enfin une, parce qu'il y en a déjà eu deux. Sinon, on répond directement. Il y en a une là. Levez bien la main.
Merci pour vos interventions. Je suis admiratif de toute cette maturité politique. Je voulais juste demander comment se pose la même situation dans d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie ou la Grande-Bretagne.
Merci. Qui veut répondre sur ces trois questions du coup, qu'on a eues, deux en une et une troisième ? Claire Toury.
Moi, je veux bien répondre à la question sur le changement. Je sais pas de quel changement vous parlez, mais si on parle du changement pour plus de justice climatique, pour une transition climatique effective, avec des décisions radicales qui doivent être prises pour que les modes de vie changent, et les modes de vie, puis le fonctionnement étatique, institutionnel, etc. Moi, je me dis que de toute façon, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, pour le coup, là, on est quand même face à... Enfin, c'est pas une opinion, la transition écologique. On n'est pas qu'on est pour ou contre. C'est que il faut une transition écologique parce que sinon, on sera plus là. Je suis un peu dramatique quand je dis ça, mais c'est un changement qui est indispensable. En revanche, que la manière dont la transition écologique se fait, la question de la répartition de l'effort, enfin, il y a plein de questions qui se posent derrière. Ça, c'est des questions qui sont éminemment politiques. Et moi, je trouve que c'est plutôt sain qu'il y ait de la conflictualité, en fait, face aux décisions qui vont être prises. En fait, dès lors qu'on fait tous le même constat qu'on doit atteindre un certain nombre d'objectifs, après, voilà, ben, quand on va se positionner de telle ou telle manière sur l'échiquier politique, en fait, il faut qu'on ait des alternatives politiques et des offres politiques qui nous permettent de nous positionner selon notre positionnement, notre avis, etc. Mais je trouve qu'une conflictualité dans une certaine déclinaison, c'est plutôt sain, et je trouve que c'est de ça dont on manque, mais cruellement aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas trop réagi sur le débat sur les partis politiques, mais la question de l'offre politique, c'est quand même un vrai sujet. Et il y a des recompositions qui sont en train de s'organiser, c'est intéressant. Mais il y a quand même eu un moment, là, toute cette campagne présidentielle qui était quand même extrêmement compliquée pour quelqu'un qui est sensibilisé politiquement sans être militant dans un parti. Il y a eu des moments de grande solitude et de grand désespoir. Enfin, moi, je trouvais que c'était parfois très, très difficile parce que... j'avais pas le sentiment d'avoir face à moi toujours des offres politiques crédibles, bien articulées, qui pouvaient répondre à mes attentes, à mes ambitions, à mes envies, etc. Enfin, je dis ça pour moi, mais quand on voit le taux de participation, j'étais sans doute pas la seule. Et je tiens à dire que je suis quand même allée voter, hein, mais voilà. Bon, bref. Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt sain qu'il y ait de la conflictualité dans les décisions qui vont être prises dès lors que le constat est partagé. Parce que ce constat-là, c'est pas une opinion.
Moi, je peux dire un mot est-ce que tout le monde est d'accord sur les modes d'action ou pas? Et est-ce que ceux qui font de la désobéissance civile, par exemple, sont d'accord avec nous qui sont dans d'autres postures? Je pense que non. Enfin, on est critiqué de la part d'un certain nombre de personnes qui font de la désobéissance civile en disant que voilà, que ce qu'on fait ne sert à rien, que c'est qu'on participe à la politique des petits gestes ou ce genre de choses.
Quand vous dites on, pensez à...
Bon, moi, par exemple, je peux parler de Point Réveil écologique, où nous, on fait le choix de dialoguer avec des décideurs économiques, des décideurs politiques. On fait le choix d'aller rencontrer des députés des différents partis ou des ministres aujourd'hui. On a participé, par exemple, récemment au plan de formation des fonctionnaires qui a été annoncé par le ministre de la fonction publique. Moi, je pense que c'est nécessaire de partager davantage une culture sur les questions écologiques. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est pas suffisant et que aujourd'hui la fresque du climat qui se déploie partout dans les entreprises, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Et c'est un peu, on peut agiter ça en disant on le fait, donc on s'engage. Je suis très partagé là-dessus. Et en même temps, je pense que diffuser cette culture est quand même nécessaire et qu'il faut le faire. Voilà, on peut tomber dans un risque de pureté militante à ne pas vouloir dialoguer avec personne. Je pense que c'est un vrai risque et que qu'il faut trouver toujours un juste milieu. Mais en même temps, c'est bien pour nous qui sommes peut-être plus dans une posture un peu plus réformiste. Ça nous interroge et on a besoin d'être critiqués aussi par des gens qui sont plus radicaux que nous.
Peut-être d'ailleurs qu'ils ont été désobéissants au point de ne pas répondre à votre invitation. C'est possible. Mais non, pour répondre plus sérieusement à la question, et ça répondra du coup aussi à votre question, monsieur, sur la situation dans les autres pays. Hein. Je vais me garder quand même de faire une analyse politique fine en Allemagne ou en Irlande. Hein. Je n'ai vraiment pas les connaissances et les compétences. Néanmoins, il y a des traits communs. C'est-à-dire que la crise démocratique traverse avec plus ou moins de maturité, mais l'ensemble des démocraties occidentales, puisqu'en fait elle repose quand même sur des faits qui sont communs, notamment évidemment l'affaissement des corps intermédiaires, puisque c'était eux en fait la première barrière aussi contre la désinformation, hein, c'est-à-dire que Aujourd'hui, comme vous désintermédiez tout, les gens sont en contact direct avec les sources d'information et il n'y a plus cette proximité du quotidien pour un peu tempérer en fait les gens avant qu'ils partent trop loin dans des silos d'informations et que du coup ils se radicalisent au fur et à mesure. Et ça, c'est un fait qu'on trouve vraiment dans l'ensemble des démocraties occidentales. Et pour répondre du coup, et ça fait lien avec la question aussi sur l'unité par rapport au changement, je dirais que la situation est, encore une fois, il y a des faits communs sur les démocraties occidentales, puisqu'en fait, de manière générale, la classe moyenne est en train de disparaître. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une note très intéressante de Carrefour qui est en train d'acter son changement de modèle économique et de faire une croix sur une classe moyenne qui a un vrai pouvoir d'achat et de vraiment évoluer vers un système où il y aurait une offre en fait très luxe et ensuite une offre hard discount, mais vraiment hard discount, en actant en fait la séparation des deux blocs dans la société, ce qui honnêtement est quand même pas très réjouissant. Et là-dessus, il y a l'unité du combat contre, malgré tout, cet accaparement en fait des richesses par une minorité. Là où je pense qu'on a un angle mort énorme, et moi travaillant beaucoup sur les problématiques sur le continent africain, c'est que je crois qu'on se met un énorme doigt dans l'œil sur les revendications extrêmement légitimes portées par les pays émergents vis-à-vis de nous, pays développés et pays riches. Et c'est en train de se jouer en ce moment à la COP27. Mais la question de la justice climatique, et donc évidemment aussi vis-à-vis des richesses, je crois qu'on se rend pas compte du train qu'on va prendre dans la figure. C'est-à-dire que on a, en gros, si on voulait rester à 1,5, les pays riches plus les intermédiaires Chine et Inde, on a déjà en fait émis les trois quarts du stock historiquement en fait de gaz à effet de serre qu'on aurait pu se permettre. Le problème, c'est que maintenant il nous reste un quart, mais on doit le répartir à 8 milliards. Et donc là, il y a un petit enjeu qu'on commence à peine à toucher un peu du doigt et qui va être comment on fait pour laisser leur place aux émergents, comment on fait pour les laisser polluer alors que nous-mêmes on n'est pas prêts à renoncer à un certain confort, à une certaine économie qui évidemment dévore la nature. Et ça, ça va être l'enjeu, je pense, des 10-20 prochaines années, puisque ça va animer évidemment les questions géopolitiques et internes dans nos pays, parce qu'il va falloir organiser malgré tout ce transfert de richesses.
Claire Lejeune.
Oui, moi je vais juste rebondir sur cette question de est-ce qu'on est tous d'accord sur les moyens de la lutte et est-ce qu'il y a cette unité dans le changement. Je pense qu'effectivement non. On a eu des illustrations du fait que c'était pas forcément le cas assez récemment. Et je tenterai un parallèle en fait entre le pouvoir dans l'institution et la nécessité d'un contre-pouvoir associatif, citoyen constant. Et puis l'échiquier, enfin militant du coup, où en fait il y a ce rappel constant par les forces plus radicales de l'écosystème militant, des partis davantage liés à l'institution ou qui essayent d'y entrer justement, de l'impératif de tenir bon sur une ligne qui est véritablement transformatrice. Parce qu'on est quand même passé d'un moment où c'était juste difficile de parler d'écologie à un moment où tout le monde en parle, et en parle parfois avec des projets, des visions sociales derrière qui sont peu, voire pas du tout transformatrices et même parfois assez conservatrices. Donc le pouvoir, la prise de pouvoir, l'exercice du pouvoir produit, je pense, par nature de l'inertie, du repli, du conservatisme. Donc en fait, même dans une situation où des forces justement de transformation prennent le pouvoir, il faudra un mouvement social radical à l'extérieur des murs de l'institution et déployé partout sur les territoires. Donc je le vois pas du tout, je pense que c'est normal qu'on soit pas tous d'accord, et de ce point de vue-là, il y a l'ancienne de la convergence des luttes, je pense qu'en fait il faut davantage penser une espèce de liaison et de complémentarité des luttes. Convergence, il y a l'idée qu'on va tous aboutir au même point, être tous d'accord dans une unité et un bloc homogène. C'est faux, c'est pas souhaitable d'ailleurs. Moi, je pense que c'est très sain que le mouvement militant soit composé de diverses structures, avec diverses positions par rapport à la question de la radicalité, avec des stratégies différentes, parce que on peut pas non plus, vu l'urgence et la situation dans laquelle on est, on peut pas se permettre de tout miser sur une stratégie non plus. C'est pour ça que la pluralité des modes d'action est aussi extrêmement importante, parce que tout à l'heure, je parlais des initiatives locales. En fait, c'est pas exclu que dans les décennies à venir, la partie institutionnelle se délite. Enfin, on ne sait pas vers quoi on va. Et dans ce cas-là, il faudra une base active et solide au niveau plus territorial pour continuer de créer du collectif.
Et peut-être juste pour rebondir là-dessus rapidement. Rapidement, le tour de passe-passe est extraordinaire pour, je pense, semer la zizanie et diviser en fait les forces progressistes. C'est d'avoir renversé la table et de faire en sorte qu'aujourd'hui le point d'entrée dans la politique se fait plutôt sur des bases de questions sociétales au sens large, au lieu de commencer d'abord par un rapport par rapport à la machine capitaliste et le problème économique et social. Et en fait, à ce petit jeu, on sera toujours différent de l'autre. C'est-à-dire qu'on a tous des nuances de positionnement par rapport aux questions sociétales. Et en attendant, on s'engueule là-dessus. Et par contre, la machine capitaliste continue son travail bien tranquillement de sape et d'augmentation des inégalités.
Question suivante.
Oui. Moi, j'avais une question dans le contexte de parler à des jeunes et des moins jeunes qui cherchent leur posture juste aujourd'hui d'engagement. Une question par rapport à la radicalité. On sous-entend quand même une échelle de radicalité. Tu disais, Benoît, il y en a qui sont plus radicaux que nous. Donc ma question, c'est comment vous vivez, vous, votre radicalité dans votre posture aujourd'hui? Est-ce que c'est dire que vous n'êtes pas au max, parce que là, vous n'êtes pas dans la rue, la main collée par terre? Donc comment vous vivez votre radicalité? Comment on en parle de manière juste, en quittant un peu l'image échelle de valeur, pour aussi aider chacun à rejoindre aujourd'hui son engagement juste, sa radicalité juste d'aujourd'hui? Voilà, merci.
Tout d'abord, merci beaucoup. C'est passionnant d'être ici ce soir. Je suis très heureuse. J'ai trois questions. la première, c'est pour Benoît notamment, mais si vous voulez intervenir, ça sera avec plaisir. C'est sur la question de bifurcation. On a beaucoup abordé donc le sujet de « je sors de grande école et en fait, j'ai pas envie de rentrer en entreprise ». Mais quid des gens qui ne sortent pas de grande école et qui choisissent plutôt d'aller monter une communauté en écolieu, faire de la permaculture? C'est quoi l'impact aussi de ce modèle-là sur est-ce que ça a un réel impact ou pas sur la société? Première question. Deuxième, c'est donc tout ce qui est sur les partis politiques. Moi, je vois les derniers mois comme une débâcle totale des partis de gauche. On a parlé rapidement, enfin vous avez parlé rapidement de la primaire populaire, qui était quand même une initiative citoyenne soutenue par certains militants des partis et qui a été complètement balayée par le top des partis, qui a passé son temps à dire que les programmes étaient totalement irréconciliables pour ensuite faire la NUPES, donc foutage de gueule total, désolé pour le... voilà. Et on voit aujourd'hui une grosse distance aussi, parce que même la NUPES n'a pas totalement réussi son pari, puisqu'ils s'attendaient à une vague déferlante, ça n'a pas été le cas. Il y a une énorme distance par rapport aux votants, aux ouvriers, etc., qui sont accaparés à 100% par le RN. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux partis politiques et à croire que on va vraiment pouvoir, dans les 5 prochaines années, changer les partis de gauche qui pinaillent, justement, même si la différence est hyper importante, les partis de gauche pinaillent sur des trucs qui me paraissent complètement délirants quand la planète brûle. Ils pinaillent sur des trucs, le nucléaire, en fait, je m'en fous. Enfin, je voudrais juste qu'on prenne des mesures concrètes pour enrayer ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, concrètement, des choses à faire côté politique? Et un peu lié à ça, ma troisième question, c'est que moi, je vois pas le... Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure et je trouve ça intéressant, le mot révolutionner dans ce titre. Est-ce qu'en fait, il faut aller dans la rue et tout casser et faire la révolution? Voilà.
Merci. On va laisser un temps de réponse et on prendra ensuite des questions. Et voilà. Vous essayez de répondre de manière assez brève pour que... c'est chaud. Choisissez peut-être vos questions et répondez pas aux mêmes les uns les autres. Benoît?
Moi, je peux répondre peut-être sur la question de la radicalité. Moi, peut-être qu'ils ont pas la même, qu'ils ont une radicalité différente dans le mode d'action, mais pas forcément derrière dans ce qu'on veut faire advenir et dans la pensée. Et donc, je pense que c'est les deux qu'il faut concilier deux. Jusqu'où on va, dans quel mode d'action on va, puis ensuite, quelle radicalité on a vis-à-vis du système, notamment économique, capitaliste, etc. Et moi, je me considère, très anticapitaliste, mais peut-être pas très, désobéissance civile. Sur le côté sur le côté les jeunes qui bifurquent, qui vont faire de la permaculture, etc. Moi, j'encourage plutôt ce genre de choses, surtout quand on est jeune, qu'on sort d'école, parce qu'en fait, ça nous permet de voir autre chose, que sinon, on est quand même très facilement sur des rails où on rentre dans ces cabinets de conseil, dans la banque, dans la finance, et en fait, on se pose pas beaucoup de questions parce qu'on bénéficie du système. Et ceux que je connais, ceux qui vont faire du woofing, ceux qui vont faire monter ce genre de choses, en fait, ils réfléchissent, ils prennent du recul, ils sortent de ces voies de privilégiés qu'ils ont. Et puis, en fait, souvent, ils se politisent aussi. Donc, je pense qu'ils contribuent déjà par ces réflexions davantage au fait de faire venir quelque chose de nouveau. Et puis, en fait, je pense aussi qu'ils montrent réellement un idéal de ce vers quoi il faudrait aller dans ce genre de vie. Et on a besoin d'idéaux. Et puis, moi, je pense qu'on a besoin aussi de beaucoup d'archipels comme ça, de manière locale. Et que c'est pas uniquement en étant dans des réflexions politiques à Paris qu'on va faire changer ça, mais c'est aussi en étant partout sur le territoire. Et que, globalement, la plupart de ces gens de grandes écoles qui vont faire ça, ils vont contribuer, je pense, aussi à essayer de construire des initiatives locales, tout en ayant pour beaucoup de la pensée globale. En tout cas, c'est ce que j'encourage, et c'est de pas simplement être à faire pousser ses carottes en essayant d'être en autonomie.
Merci. Claire Toury.
Ouais, rapidement sur la radicalité. Moi, je me considère pas comme radicale, hein. Je devrais peut-être l'être davantage, mais je me définirais pas comme ça. Par contre, ce que je trouve que la radicalité, c'est un, parce que, notamment chez les très jeunes, c'est un mouvement qui me donne, c'est un mouvement qui est pas uniforme, mais ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir, en fait, dans la recomposition du paysage politique, dans la transformation aussi, collective. Pourquoi? Parce que je pense qu'on bascule un peu dans une nouvelle ère de l'engagement. C'est un peu mon sentiment autour des très jeunes, notamment, et on voit ça chez les adolescents. C'est très frappant, cette exigence de changement radicaux au bon sens du terme tout de suite, parce que on n'a pas le temps d'attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans d'avoir négocié, parlementé, essayé de transformer les institutions pour que les choses aient lieu. Je sais pas s'ils ont totalement raison, j'en sais rien, je suis pas là pour avoir un avis là-dessus, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que dans leur discours, dans ce discours très radical, notamment chez ces très jeunes, il y a une conscience très forte à la fois du collectif, parce que tout seul c'est impossible. Et ça, c'est une recomposition des formes d'engagement, parce qu'on a eu des engagements quand même très individualisés pendant un temps. Et je trouve qu'il y a un retour du collectif qui est très important. Et pardon, je m'y perds, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment... Ah oui, si. Et deuxième prise de conscience qui est très importante aussi dans leur discours, c'est que la radicalité, elle est plurielle, en fait. On va pas juste agir pour la transition écologique. En fait, transition écologique, justice sociale, transition démocratique, c'est un peu un triptyque qu'il faut bien articuler, parce que quand j'agis pour les plus précaires, par exemple, quand j'agis pour lutter contre les passoires thermiques, j'agis aussi pour les plus précaires, et donc pour lutter contre une situation de pauvreté, de difficultés quotidiennes. Et donc voilà, je trouve que cette articulation-là est très intéressante. Et la manière dont ils pensent les choses et dont ils pensent leur engagement, elle est très différente de la mienne. Et pourtant, je suis plus adolescente, vous en rendez bien compte, mais je suis pas hyper vieille non plus. Et je trouve qu'il y a eu un changement dans la manière de s'engager qui se traduit par un rapport de force qui est très différent vis-à-vis des institutions et qui est beaucoup plus radical, mais qui est aussi beaucoup plus porteur d'espoir.
Claire Lejeune, peut-être sur la question de confiance dans les partis.
Ouais, merci. Non, peut-être très rapidement sur la radicalité. Je pense que ça dépend de beaucoup de vous, en fait, aussi de sentir les choses en termes de forme de moyens d'action que vous avez envie de mettre en œuvre. Moi, je sais que ça a varié. On revient à l'idée qu'il y a des temps différents. Je sais pas, il y a 4 ans, j'ai décroché un portrait de Macron dans une mairie à Paris, alors que j'avais ma soutenance de mémoire l'après-midi même à Lyon. Je pense que c'était une phase où j'avais des modes d'action plus radicaux qu'aujourd'hui, alors qu'en fait, je porte la même base d'idées radicales. Donc, il y a des manières non radicales de porter un socle d'idées radicales. Voilà. Enfin, oui, alors, Oui, bon, je voulais aussi répondre à ça, mais je vais me concentrer sur la question de la confiance dans les partis. Tu mentionnais la primaire populaire. Je pense qu'il faudrait encore 3 heures pour explorer pourquoi ça n'a pas marché. Les blocages liés à la fois à la structuration actuelle des partis et aussi à la manière dont la primaire populaire s'est fondée, la gouvernance, etc. Je vais juste... rapidement, moi j'étais du coup engagée aux Jeunes Écolos, c'est un mouvement que j'ai dirigé pendant 1 an, c'était 2-3 ans avant la campagne présidentielle. Et à ce moment-là, on a créé un collectif qui s'appelait Résilience Commune et on essayait de créer l'unité des orgas jeunes des partis politiques en vue de 2022. Donc on a bataillé comme des malades contre nos partis respectifs pour dire 2022 c'est maintenant ou jamais quoi. Enfin je veux dire si on prend au sérieux, en plus moi j'étais chez les écologistes, donc si on prend au sérieux les rapports du GIEC, on peut pas faire l'impasse sur l'impératif de victoire en 2022. Et en fait il se trouve que les orgas de jeunesse sont... encore moins puissante que les orgas politiques partisanes standards, donc on n'était pas nombreux, on n'avait pas non plus l'écho dans la population en général, donc on a un peu cheminé assez seul et on n'a pas réussi à construire le rapport de force suffisant pour que ça s'impose. Tout ça pour vous dire que il faut prendre les choses bien en amont des élections. Je veux dire, 1 an avant l'élection, tout est en train de déjà se cristalliser, en fait. Hein. Tout est quasi déjà joué en termes de stratégie. Il y a des questions de financement aussi. En fait, il faut garder tout ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde vienne, s'implique, fasse bouger les choses bien en amont. Et qu'on soit sur des réflexions structurelles de comment on aborde une élection politique dans un contexte comme le nôtre d'urgence absolue, de prise de pouvoir, d'une force écologique de transformation. Voilà, donc on peut pas, quelque part, le moment de campagne est le moment de cristallisation et c'est le moment où il faut que tout le monde soit présent, mais je pense que là, il faut qu'on fasse un travail bien en amont sur ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de 2027 maintenant, en fait. Parce que il se trouve que bon après un échec quand même, tu l'as rappelé, on a quand même un outil imparfait, mais qui est voilà une forme d'unité à gauche. Et ça, il faut qu'on réussisse à en prendre soin, à faire en sorte que ça perdure, que ça se construise. Je sais pas, voilà, mais il y a un vrai travail à faire là. Et on le fera, si on laisse les partis le faire seuls, ça ne va pas marcher en fait. Donc on a besoin de vous. Voilà.
Et donc, alors la compatibilité avec la révolution... Pardon, excuse-moi.
La révolution. Merci, j'ai toutes les questions très très simples, dans lesquelles c'est très facile de répondre en 1 minute. Peut-être qu'elle arrivera. Voilà. Et peut-être que ce sera ça, la transformation. Moi, je pense qu'en l'état actuel, ça vaut le coup de croire en une prise de pouvoir démocratique par un mélange de mouvements populaires, voix des urnes, changements dans plein de parties de la société. Mais j'en ai pas la certitude absolue. Et peut-être qu'elle arrivera. Et à ce moment-là, on aura plein de questions à se poser sur le plan à la fois personnel et collectif à quelle position on prend. Mais là, les années, décennies à venir sont complètement incertaines, je pense, du point de vue de l'évolution politique, institutionnelle, écologique. Voilà, on a vu là, regardez juste les 5 ans qui viennent de s'écouler. Il s'est passé des choses on n'aurait jamais pensé, enfin, qui étaient complètement inimaginables. Donc voilà. Donc c'est pas une réponse, c'est une non-réponse et une incertitude, mais.
Quentin, vous voulez réagir à ce tour de questions rapidement ?
Bah, je sais pas, j'hésite entre radicalité de vous dire non et en même temps j'allais répondre à toutes les questions. Mais du coup, peut-être qu'on va laisser la parole parce que je crois qu'on a bien répondu aux questions.
On va reprendre un tour de questions alors.
Oui, bonsoir, merci. Sur la radicalité, je pense que ça peut desservir les associations parce qu'on voit maintenant que les associations doivent signer un contrat finalement avec l'État pour se faire subventionner. Ma question, elle est, et pour répondre à Claire sur le, comment dire, les projets. On a bien vu à l'élection précédente les partis qui avaient fait un projet, enfin un des seuls partis qui a fait un projet n'a pas eu forcément un bon score. Donc ne pensez-vous pas que ce qu'il faut le pouvoir qu'il faut prendre, c'est plutôt le pouvoir des médias qui aujourd'hui offrent des pains et des jeux aux gens qui ne sont plus, qui ne seront pas dans cette salle, qui ne sont pas du tout impliqués dans la cause ou dans les causes sociales ou environnementales. Il y a aussi des questions par là.
Ah. Bonsoir, merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure des associations qui compensent les lacunes de l'État. Et je me demandais si c'est le fait de compenser ces lacunes, ça n'empêche pas quelque part la construction du mouvement social de masse dont on a besoin pour renverser le rapport de force. Voilà, encore pas une question facile. Mais...
Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, ma question, elle vient un peu d'un sentiment à la fin de vos échanges, peut-être entre choisir, bifurquer, désobéir, s'encarter, finalement de faire dans l'existant. Or, ce que vous, c'est-à-dire militer, s'investir dans une association. Or, moi, mon sentiment personnel, c'est que en fait, comme vous l'avez dit, l'important, c'est de changer les règles, parce que sinon, les dés sont pipés. Or, vraiment, ce qui me paraît structurant, c'est des choses qu'on maîtrise pas en s'engageant sous ces formes-là associatives, typiquement la désintermédiation avec les réseaux sociaux, les choses qui nous isolent. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous, peut-être Claire Lejeune, avec votre approche de théorie politique, vous pensez qu'il y a, typiquement l'écologie politique, on voit que ça a pas été un succès. Est-ce qu'il y a des théories politiques, des choses qui nous permettent d'appréhender ces changements un peu plus structurels sur lesquels on n'a pas prise à l'échelle individuelle ou associative.
Oui, merci. Vous avez dit qu'il fallait bifurquer, désobéir, s'encarter, ce qui nécessite énormément d'énergie. Claire Touré a souligné que derrière, de temps en temps, il fallait se prendre la porte dans la figure parce qu'il y avait des échecs, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas. Dans le même temps, Quentin Sauzet disait « attention à nous vous faire récupérer et à rentrer dans le système, il faut changer souvent ». Et ma question est de dire comment est-ce que vous nous conseillez, où est-ce qu'on va chercher de l'énergie pour pouvoir tenir dans le temps pour faire tout ça, préconisation un peu générale et éventuellement par une réponse un peu particulière de chacun d'entre vous.
Ça pourrait être un mot de la fin. Si.
Écoutez, moi, je suis peut-être un petit peu différente. Moi, la question de la radicalité, elle me fait peur. Quand on entend ce que vous dites, c'est très, très, très idéologique. Et je pense que l'histoire du XXe siècle a montré la problématique de l'idéologie qui est très différente de la réalité. Voilà, donc moi, je me considère pas du tout comme écologiste, alors je suis désolée, mais comme quelqu'un qui veut juste vivre en paix pour les futures générations, mais pour nous aussi. Donc je pense que parler vraiment de peur et de crainte, enfin moi ça me parle pas du tout. Donc voilà, donc moi la radicalité pour moi est très problématique et moi je suis un peu émue. Et la radicalité des adolescents également, parce qu'on voit que dans d'autres sujets pas qu'écologiques, on combat cette radicalité. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ne pas rechercher cette radicalité, même si j'en conviens ce que vous avez dit sur la lutte politique, qui est très importante pour certains combats sociaux qui sont arrivés comme ça, notamment pour le droit de vote des femmes. Donc moi-même, je suis un peu en confusion sur tous ces aspects-là, mais vous entendre d'une manière générale parler d'un changement lointain, sans aucune précision sur ce qu'on veut, et j'ai beaucoup aimé la première question sur quel périmètre du changement, qu'est-ce qu'on attend du changement, moi ça me fait très peur en fait, parce qu'on parle de transition, vers quoi? Vers où? Enfin, moi je ne peux pas m'inscrire dans quelque chose qui n'a pas une... dont on ne se connaît pas le point final. Vous voyez, en fait, le chemin, ce n'est pas la question du chemin, c'est vers où on veut aller. Alors, ce n'est peut-être pas la question, le sujet de ce soir, Mais du coup, moi je reste assez sceptique par rapport à cette radicalité. Merci.
Merci. L'idée, c'est, il y a beaucoup de questions. L'idée, c'est peut-être que vous fassiez une première salve de réponses et puis en conclusion, on refera un dernier tour pour que vous puissiez dire un peu une conclusion générale, un mot d'encouragement peut-être. Et voilà.
Peut-être répondre tout de suite à la dernière question. Bon, déjà, n'ayez pas peur. Hein. Le but, c'est pas de vous effrayer. Ça dépend ce qu'on met comme notion derrière radicalité. Hein. Donc, le but, c'est vraiment pas que vous ressortiez d'ici vraiment et que vous dormiez mal ce soir. Quoi. C'est-à-dire que le but, en fait, de tout ça, et je crois que aussi le fait qu'on n'ait pas totalement défini, en tout cas pour ma part, la notion transition vers quoi et quel changement, c'est parce que si c'est pas nous de vous imposer cette vision. C'est-à-dire que moi, je serais heureux si vous sortez de là en ayant l'envie encore plus de vous engager, mais sur des thématiques qui vous sont chères. On a chacun des moteurs personnels, en fait, d'engagement. On a chacun un sujet qui nous porte plus. Et en fait, cette énergie, j'anticipe un peu aussi, mais c'est l'émotion, c'est-à-dire c'est s'ouvrir à cette question qui peut nous choquer, nous révolter, et d'essayer de comprendre comment on peut changer ça. Et en fait, si ça se trouve... dans le corps social qui se mobilise, il y a tellement de facteurs du mouvement, qu'en fait, c'est très compliqué de dire on va tous bouger pour cette raison-là, ça c'est impossible. Vous voyez, donc la question c'est vraiment de faire un travail, d'abord un travail personnel sur dans ce qui vous entoure, dans ce qui vous fait bouger, vous lever le matin, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans ce que vous voyez, dans ce que vous expérimentez, et du coup comment vous pouvez le changer. Mais ça, c'est pas à nous de répondre là-dessus. Mais vous voyez, la radicalité, je voulais en parler tout à l'heure, ça peut prendre tellement de formes. Moi, je considère que, vous voyez, une personne, un père ou une mère célibataire qui arrive à élever ses enfants, ses deux enfants, dignement, avec amour, c'est une sacrée radicalité, quoi. Vous voyez, c'est un choix extraordinaire qui aboutit à une radicalité qui est que c'est le don absolu parce qu'il faut faire en sorte que ces enfants aient tout l'amour dont ils ont besoin. Et donc, vous voyez, cette radicalité, faut pas en avoir peur. C'est juste un choix fort, à un moment donné, sur des valeurs qui vous sont chères.
Merci. Une autre réaction, réponse aux quatre questions qu'on a eues?
Moi, je veux bien prendre le relais. Je donnerais un sens un petit peu différent à radicalité. En fait, si on prend l'épistémologie qu'on rappelle souvent, c'est la racine. En fait, ce qu'on dit lorsqu'on dit qu'il faut prendre une voie radicale, c'est qu'il faut qu'on ait une interrogation systémique et profonde sur les raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation-là. Parce que moi, je vous rejoins sur l'idée que c'est effrayant et qu'on sait... Quand là, en fait, on est aussi sur des questions stratégiques. Donc, on parle moins de la société, on décrit pas la société vers laquelle on voudrait aller, les mesures à mettre en œuvre, etc., les étapes, etc. Mais en fait, ce qui va être assurément effrayant, c'est la situation dans laquelle on va se retrouver. Si on n'arrive pas à changer les choses, en fait, moi, c'est beaucoup plus. Et là, pour le coup, on a des certitudes. On a des descriptions très précises dans les rapports du GIEC de à quel point la situation va être chaotique et effrayante pour tout le monde. Donc, oui, c'est un saut dans le vide de s'engager. C'est un saut dans le vide d'essayer de construire autre chose. Ça demande... C'est à la fois effrayant et très enthousiasmant parce qu'en fait, on a une société à imaginer qui va pas non plus faire table rase de ce qui existe aujourd'hui. Mais on a une tâche de création incroyable aussi. Et donc ça aussi, ça va demander de l'énergie militante, etc. Donc, je donnerais plutôt ce sens-là à radicalité. Et voilà, si ça peut aider à appréhender, je pense, l'idée qu'on met derrière. Et sur la description de justement le monde vers lequel on aimerait aller, il y a plein de choses qui se font, en fait. Hein. Il y a des multiples associations qui font qui écrivent beaucoup, les partis politiques et pas que un, écrivent des programmes, des projets. Je pense que tous les partis politiques ont présenté leur programme lors de la dernière campagne. Il y a tout le travail. Moi, je suis chercheuse et je travaille sur, du coup, la planification écologique, dont le fait d'enlever de la gestion du marché tout un des pans entiers de l'économie et de rétablir une autre manière de la gérer. Je tâtonne aussi, c'est le travail de la recherche, mais il y a plein de gens qui se mettent en mouvement pour essayer de construire les étapes vers quelque chose de différent, qui sera effectivement radicalement différent parce qu'on aura pris en compte les racines des problématiques écologiques et sociales et économiques, tout ça s'entremêle, actuelles. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je vais répondre rapidement sur changer les règles parce que la question m'était adressée. Oui, alors moi aussi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut changer les règles. C'est pour ça que je partage mon temps entre le militantisme dans un parti politique pour prendre le pouvoir et changer les règles et la recherche où je travaille beaucoup sur le nouveau cadre législatif, le changement aussi de constitution, le changement de forme démocratique qu'il va falloir mettre en œuvre pour arriver à redémocratiser l'économie et aller vers une société qu'on pourrait caractériser d'écologique, réinscrite dans les limites planétaires du moins.
Merci. Benoît ou Claire Toury?
Moi, je peux peut-être parler de la question de comment se ressourcer dans ses engagements et comment durer. Je pense que en fait, c'est à chacun de voir un peu ce qui fait du bien. Moi, je sais que le fait de m'engager en collectif et de faire partie d'un collectif et aussi d'avoir du temps gratuit avec les personnes avec qui je m'engage, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup et qui m'aide à tenir. Et en même temps, cela dit, moi, à la fin de mes années d'études, après 4 ans à avoir où cet engagement a pris beaucoup de place et j'ai séché un certain nombre de cours pour cet engagement par exemple, je sentais que je m'épuisais et que ça prenait trop de place, et donc j'ai fait peut-être un choix qu'on pourrait qualifier de radical, mais je me suis dit je vais faire une pause complète, et donc je suis parti plusieurs mois dans une abbaye pour suivre une formation théologique et en mettant complètement de côté cet engagement, et je sens que ça m'a fait aussi beaucoup de bien, et puis pour voir comment repartir derrière, et donc je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître que on ne va pas changer le monde tout seul, enfin avec nos petits bras, et qu'on n'est pas indispensable à la lutte, et qu'on peut aussi de temps en temps mettre en pause.
Peut-être sur les assos, enfin l'épuisement. Enfin, c'était pas ça votre question, mais je vais répondre comme ça plutôt. Effectivement, on les assos qui compensent, et du coup, mais je la comprends comme les assos qui compensent et donc qui s'épuisent en fait d'une certaine manière. Oui, en fait, enfin, je sais pas si c'est parce qu'on compense qu'on s'épuise, mais c'est sûr que c'est pas évident hein, aujourd'hui de gérer une structure associative. C'est des bouts de ficelle tout le temps, c'est chercher un peu de fond, il y en a jamais assez. Je dis pas ça parce que je les représente, mais de manière un peu objective, c'est quand même des gens qui font des choses incroyable avec quasiment rien, donc ça demande beaucoup beaucoup d'énergie et moi ce que je trouve problématique, et ça rejoint peut-être un peu ce que vous sous-entendiez, c'est qu'on prend jamais le temps, enfin on prend difficilement le temps de mettre en récit un peu toute l'action associative, et souvent je dis en fait on a face à nous un monde qui est hyper puissant. C'est 1,5 million de structures, c'est 20 millions de bénévoles. C'est énorme, en fait. Quand on parle de désengagement, moi, ça me fait un peu rigoler. Mais sauf que c'est des gens qui n'ont pas toujours conscience qu'elles font partie de quelque chose de parfois beaucoup plus puissant que... de plus puissant que l'action pour laquelle ils se réunissent au départ. Et donc je trouve que c'est ça l'enjeu, c'est de réussir à mettre en récit tout ça, à montrer que la force associative, mais la force des mouvements sociaux en général, c'est une force de transformation, et que quand on s'engage dans une association, on s'engage pour plein de raisons, il y a différentes manières de penser, différentes valeurs dans l'action associative, mais on choisit un modèle qui lui-même et une autre manière de faire société, en fait. Ça veut pas dire en dehors de la société, mais c'est une autre manière de faire société, sans les mêmes rapports marchands, sans la même manière de prendre des décisions, sans la même manière de faire collectif. Et voilà, et ça, je trouve qu'il faut qu'on le martèle beaucoup plus pour pouvoir porter des changements. Et je garde la réponse à votre question pour ma conclusion, du coup.
Eh bien, concluons.
Non, mais il y avait juste peut-être la question de l'information pour pas laisser monsieur en suspens, mais on est tous d'accord, hein. Je pense que c'est un vrai problème dans les médias. Il y a une super association qui bosse sur la question, on pourra en parler après, sur la pluralité et le modèle économique, en fait, de l'information en France. Et là, les phénomènes récents vous montrent à quel point c'est de la folie furieuse en termes démocratiques, de considérer encore une fois ce secteur comme étant un secteur comme les autres économiques qu'on pourrait laisser au capitalisme débridé. Donc, vous voyez, c'est ce travail-là qu'on doit faire secteur par secteur et se demander à chaque fois si on veut préserver tel et tel intérêt, quelle est la place du modèle économique.
Merci. On va faire un dernier tour, chacun des intervenants et intervenantes. 20 secondes, le message avec lequel vous voulez laisser la salle, parce qu'il faudra qu'on laisse la salle bientôt. Peut-être Benoît pour commencer.
D'accord. Moi, peut-être que c'est simplement un encouragement à s'engager, même si on a beaucoup théorisé l'engagement, comment s'engager, comment faire advenir le changement. Je pense qu'à un moment, il faut se lancer simplement. En fait, moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai commencé. J'avais pas une grosse culture politique, mais j'avais l'envie d'agir sur ces questions écologiques parce que ça me touchait. Et puis, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment dans ces grandes écoles où il se passait vraiment un mouvement. Et je peux dire que ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes. Et puis, ça a été très stimulant de s'engager, de gagner certains combats assez concrets. Voilà. Et donc, ne pas hésiter à se lancer. Et en fait, il y a besoin de monde dans beaucoup de mouvements. Donc, faut y aller.
Merci. Quentin ?
Oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit un peu, mais ne cherchez pas absolument à théoriser cet engagement, c'est-à-dire prenez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, un lien de proximité que vous pouvez avoir avec tel ou tel sujet, et en fait c'est déjà un engagement. Si vous y apportez votre énergie, vos valeurs, vous êtes déjà en fait en train de provoquer du changement. Donc ressortez pas ce soir en disant « oh là là, quel parti politique ou quelle association, etc. » En fait, il ne faut pas tout rebousculer. Vous avez déjà dans vos proximités, en fait, et j'en suis certain, tous et toutes, le moyen, en fait, de vous engager et d'apporter des valeurs qui vous sont chères. Et c'est ça le plus important, en fait. Chacun doit avoir sa contribution. Évidemment, si à un moment donné, quand même, vous voulez aussi donner un peu de temps aux partis politiques et moins aux plateformes type Netflix, c'est encore mieux.
Voilà. Merci. Une des deux Claire, celle qui voudra.
Non, mais moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que je trouve que vraiment il faut qu'on fasse attention tous à pas avoir un discours qui est trop plombant. Alors je dis pas qu'on était plombant ce soir, pas du tout, mais d'une manière générale, quand on parle de transition écologique, de changement, il y a un côté un peu c'est lourd quoi. Et ça veut pas dire que c'est pas lourd. Hein. Je pense que c'est vraiment lourd et que c'est grave au sens premier sens du terme, merci. Et donc c'est important de le dire, mais enfin on peut aussi beaucoup s'amuser. Hein. Enfin moi je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Et l'énergie, pour répondre à votre question, je sais plus qui posait cette question, l'énergie on la trouve comme ça. Enfin, moi je trouve que c'est des espaces qui sont collectifs. Et ça c'est génial. On rencontre des gens qu'on rencontrerait jamais ailleurs. Mmh. On découvre que la réussite, elle peut prendre plein de formes différentes. Réussir, c'est pas avoir 18 ans maths, avoir son bac à 18 ans, son master à 23 et puis peut-être une thèse après. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas seulement ça réussir. Réussir, c'est se confronter à d'autres, monter des projets, expérimenter des trucs qu'on n'aurait jamais expérimenté autrement que dans ces espaces-là. Et moi, mon énergie, c'est de là qu'elle vient. C'est ce sentiment qu'il y a une infinité de possibilités. Parce que dès lors qu'on est en collectif, on peut faire bouger vraiment les choses et surtout on peut vraiment beaucoup s'amuser. Et la dimension de la convivialité n'est pas négligeable. D'ailleurs, je crois qu'après on pourra aller boire un verre.
Moi, ça va être dans la même ambiance que Claire pour qu'on termine sur une note positive et enthousiasmante et qui vous donne envie de rejoindre n'importe quel asso, mouvement, parti. Voilà. J'aimerais plutôt insister sur en fait que c'est l'engagement est un vrai antidote aussi à l'espèce d'abattement, de morosité, de désespoir qui peut très légitimement tous nous accabler. Et même quand on est militant, on a des moments où on est un peu plus bas que d'autres. Mais je veux dire, moi je l'ai ressenti beaucoup parce que j'ai eu un moment très intense de militantisme pendant la campagne. Et un creux un peu de repos pendant l'été et où je me suis remise à avoir un rapport très très angoissé à la question du changement climatique, etc. Mais parce que je sentais que j'étais moins active en fait. Et donc, et même sur la question de à quoi va ressembler le monde tel qu'on le voudrait, en fait le fait d'être en mouvement et d'être en train de construire déjà ça comme rien qu'à l'état mental et de pouvoir en parler en collectif, ça donne une force immense en fait. Et je pense qu'on sous-estime la force qu'on peut avoir quand on se constitue en collectif. Parce que la société crée ça. Je veux dire, le capitalisme libéral crée un repli individuel et c'est extrêmement violent et c'est très dur d'aller à contre-courant. Mais une fois que vous avez créé cette dynamique collective, que vous sentez en faire partie, vous avez tellement plus de possibilités de couper court à ça. Et voilà, parce que les possibles, ils s'ouvrent qu'à partir du, enfin, à partir du moment où il y a un espoir collectif. Et voilà.
Merci. Un immense merci à nos invités. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'apporter tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. C'est vraiment très riche. Merci au Centre CEF pour l'accueil et la logistique. Merci. Merci à tous les partenaires de cette soirée, parce que donc elle a lieu dans le cadre du diplôme universitaire humanisme et politique, comme on vous le disait au début. Vous pouvez vous inscrire l'année prochaine, a priori, pour suivre toute la formation dans son entier, entièrement. On vous rappelle aussi que donc les 2/4 de la table ronde ont écrit dans Projet sont des intervenants de Projet, la revue Projet, donc qui est cette revue-là. Et vous pourrez la trouver, la découvrir à la sortie de la salle. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de prolonger la soirée, l'idée c'est d'aller dans un bar qui s'appelle Chez Ignace, qui est le bar associatif de la Maison Maguis. Pour ceux qui la connaissent pas, ça sera l'occasion de la découvrir. C'est au 12 rue d'Assas. Et il y a des bières locales et pas chères, voilà. Donc c'est une cordiale invitation à tous ceux qui ont envie de continuer à discuter. Un immense merci à vous d'avoir été là aussi, c'était vraiment super. Et au plaisir.